Vous allez entendre un message de William Branham prêché le 14 juillet 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message s'intitule « Pourquoi crier, parle ?» Premièrement, pendant un court instant, vous entendrez Frère Branham prêcher en anglais. Puis, vous entendrez la traduction française de ce message.
God had a purpose in it. God's got a purpose of you being here. Amen. If you can only be get to that place, how much trouble you save God and yourself too. Moses barned, and then he was afterwards. He was brought to the place where he was anointed. And notice the seed laying there with the intellectual conception of all the faith that he was born to deliver this people, and yet it never come to life. Until that light from the burning bush flashed across it. Amen. Until he seen, not something he read about, but something he seen with his eyes. Something that spoke to him and he spoke back to it. Oh, how that did bring things to life. I think any man with a woman, boy or girl, and I think in an intellectual conception of what they think the word is and so forth, never can have a full foundation.
Restons debout un moment alors que nous courbons nos têtes. Y a-t-il une requête spéciale? Si vous le désirez, faites-la connaître en levant vos mains vers Dieu, disant par cela, « Seigneur, tu connais mon besoin. » Père Céleste, nous sommes vraiment des gens privilégiés ce matin d'être assemblés dans la maison de Dieu, que nous savons qu'il y en a tellement qui voudraient être dans la maison de Dieu ce matin et qui sont dans des hôpitaux sur un lit de maladie, alors que toi, tu nous as donné ce privilège de venir ici aujourd'hui. Nous ne venons jamais, Seigneur, pour être vus des autres, bien que nous aimions fraterniser les uns avec les autres. Mais nous pouvons faire cela dans nos demeures. Mais nous sommes venus ici pour communier avec celui qui nous a rassemblés comme des enfants bien-aimés et des frères. Nous te remercions maintenant, et la seule manière que nous connaissons pour communier correctement avec toi, c'est d'être autour de ta parole. Ta parole est la vérité. Nous nous rassemblons ici pour recevoir une force spirituelle. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous devons être fortifiés pour porter notre croix. Nous te prions d'envoyer aujourd'hui le glorieux Saint-Esprit qui nous fortifiera tous. Réponds aux requêtes de ton peuple, comme il s'est rassemblé et a levé les mains vers toi, montrant par là qu'il avait besoin de quelque chose. Exauce chacune d'elles, Seigneur. Nous te remercions d'avoir épargné la vie de notre sœur Anne Green hier soir d'un accident qu'elle a eu là-bas sur la route. Tu as été bienveillant vers elle, Seigneur. Et nous t'en remercions. Et maintenant, nous te prions, Père Céleste, de continuer d'être avec nous et de nous aider dans notre voyage ici-bas. Revêt-nous de ta puissance, dans la foi, que selon tes promesses, ta présence sera continuellement avec nous. À l'heure où nous sommes dans le besoin, nous savons que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent, et qu'ils nous porteront de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Nous te prions maintenant de bénir pour nous ta parole et de parler au travers de nous et en nous. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je suis reconnaissant que le soleil brille maintenant dehors. Il faisait très vilain ce matin, et spécialement dans cette région où le temps est si sombre et maussade. Était réjouissant de voir le soleil se montrer et briller. Nous avons eu aujourd'hui une petite réunion de famille. J'ai rencontré mes frères et certains de nos parents dans des alentours de la maison de ma sœur. La grande équipe des Branham, s'ils venaient tous du Kentucky ici, je crois que nous devrions louer la ville entière. Il y en a tellement. Mais c'est simplement un petit retour au pays. Nous avions l'habitude de nous rencontrer dans la maison de maman. Elle était le vieux poteau d'attache qui nous a, en quelque sorte, gardés ensemble. Mais Dieu a repris au ciel le poteau d'attache et j'espère que nous nous rencontrerons tous un jour là-bas. En parlant l'autre jour, j'ai dit, « Vous savez, je crois que je ramènerai mes messages du dimanche à environ 20 à 30 minutes. Et ensuite, je prierai pour les malades. » Et je pensais à cela ce matin, et j'y pensais aussi hier soir lorsque Sœur Downing m'appela et dit que, appela Billy et dit qu'elle et Sœur Anne Green avaient dérapé sur la route et avaient eu un accident. Et alors que Billy était toujours à la fenêtre, je ne sais pas à quelle heure il était, c'était peut-être ce matin, j'avais déjà dormi pendant un bon moment, je regardais du côté de chez Frère Wood et les lumières étaient éteintes. Et je me suis simplement agenouillé pour prier, et quand je le fis, quelque chose me dit, c'est en ordre, ainsi je dis à Billy de lui dire que je pensais que tout serait en ordre. Je suis si content de les voir ici ce matin, assis dans la maison du Seigneur, après cet accident sur la route, dire qu'il y a des gens qui vous aiment à tel point qu'ils parcourent des centaines de kilomètres pour entendre l'Évangile. Alors, je pensais qu'un message de 20 minutes, aussi long que je suis, ne serait pas bon. Ainsi je pensais que je les ferai un peu plus long. Ce matin, Frère Anne Green, son fils, chanta « Combien tu es grand ». Cela veut dire pour lui plus ce matin que hier après-midi, parce que le grand Dieu du ciel épargna sa précieuse mère et aussi sa sœur. Aujourd'hui, nous comptons avoir un temps très béni dans le Seigneur. Il y avait deux ou trois textes différents ici que je regardais, et je ne pouvais pas m'imaginer sur lequel je parlerai ce matin. L'un d'entre eux était « Déposez vos soucis sur lui, car il se soucie de vous. Maintenant, s'il se soucie de vous, alors pourquoi pas vous ?» Et l'autre, c'est Billy Paul, non pas Billy Paul, mais mon autre fils Joseph qui m'apporta ce texte, il y a longtemps. Un jour, j'étais assis dans la chambre, et regardant vers l'image, il me dit « Joseph aime beaucoup les bateaux comme les autres petits garçons, les bateaux et les chevaux, vous savez. » Et il me dit « Papa, Jésus a-t-il un bateau ?» Je lui répondis, « Je ne sais pas. » Ainsi, après qu'il fut sorti, je me mis à réfléchir, « A-t-il un bateau ?» Et de cela, je pris un texte que je marquais cela ici dans mon livre, « Jésus a-t-il un bateau ?» Je pensais que lorsqu'il était ici sur la terre, il eût emprunté un saint pour y naître, une tombe pour y être enterré, un bateau duquel prêcher, mais il est le pilote du vieux bateau de Sion. Je pensais que je pourrais peut-être prendre ces textes plus tard, avant que nous partions pour retourner là-bas. Vous savez, j'aime parler ici au tabernacle, parce que c'est notre église à nous. Nous nous sentons libres de dire tout ce que le Saint-Esprit dit. Dans d'autres endroits, même si vous êtes le bienvenu, vous vous sentez un peu gêné, parce que vous êtes dans l'église de quelqu'un d'autre. Aussi, vous désirez être assez gentleman, vous respectez leurs pensées et leurs doctrines. J'ai eu un moment merveilleux cette semaine chez Frère Burham. Je suis allé dans la fabrique où ils font le fromage. Je vois que lui, sa femme et son fils sont présents ce matin. J'ai toujours pensé qu'une fabrique de fromage devait ressembler aux différents établissements que je visitais dans le passé. Locaux sales et humides. Eh bien, je peux vous dire une chose. Vous pouvez en être assuré, ce n'est pas le cas ici. Bien au contraire, c'est l'endroit le plus propre que j'ai rencontré, spécialement dans une fabrique. Je ne réalisais pas, je pensais, oh peut-être qu'ils font une centaine de livres de fromage par jour, mais ils en font 6 tonnes par jour. Il y a 3 fabriques qui marchent. Je pensais, oh mais, qui mange tout ce fromage? Le Seigneur a vraiment béni cet homme et j'ai eu le privilège d'aller chez lui. C'est un milieu charmant et une épouse très consacrée. De la manière qu'il se porte, ils n'ont aucune raison de ne pas vivre pour Christ chaque jour. Je suis rencontré son fils et ce sont là de très gentilles personnes. Nous sommes si reconnaissants de cette communion que nous avons les uns avec les autres. J'ai découvert que leur ancien pasteur était un homme que je connaissais. Frère Gurley, c'est son nom, est un homme très bien de la foi pentecôtiste unitaire. Je l'ai rencontré il y a plusieurs années à Jonesboro dans l'Arkansas. Mais je ne savais pas que c'était leur pasteur. Souvenez-vous des réunions ce soir et le Seigneur voulant, nous espérons parler de nouveau dimanche prochain. Je pense que le dimanche suivant, je devrais aller à Chicago. Ensuite, je serai loin pendant un temps. Je dois ramener ma famille en Arizona afin que les enfants puissent s'inscrire de nouveau à l'école. Alors, nous arrêterons d'importuner le pasteur en prenant ses services. Ainsi, nous sommes très reconnaissants à Ferneville pour son hospitalité. Comme vous le savez, j'ai été invité et il est tellement... J'aime ce frère, un homme comme cela dans lequel il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de trace d'égoïsme, mais seulement un véritable christianisme. J'aime cela. Nous allons lire une partie de l'Écriture et ensuite nous passerons aux commentaires. Je ne sais pas à quelle heure nous sortirons après ces longs messages, mais je pense... Je parlais l'autre jour sur le fait que je parlais si longtemps. Et quand on me dit, mais si vous ne parlez que quelques minutes, alors que vous prêchez d'une façon un peu mystérieuse, nous ne pourrons jamais comprendre. Il dit encore, continuez à parler et après un moment, cela devient clair. Ainsi, peut-être que le Seigneur désire que nous le fassions ainsi. Inclinons de nouveau nos têtes. Seigneur, ta parole, elle a ouvert sur la chair et nous réalisons qu'un jour, elle se fermera pour la dernière fois. Alors, la parole sera chère. Nous te sommes reconnaissants pour ce moment que nous avons ce matin et ouvre pour nous le contenu de cette parole que nous allons lire. Puisse le Saint-Esprit nous enseigner aujourd'hui les choses que nous devrions connaître et puissions-nous ensuite écouter attentivement et peser chaque parole. Que ceux qui écoutent au moyen d'une bande soient de même attentifs. Puissions-nous tous saisir ce que le Saint-Esprit essaye de nous révéler. Car nous réalisons que si tu nous visites, alors l'onction ne vient pas en vain. C'est dans un but, et cela doit concourir au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et puissent nos cœurs et notre esprit être ouverts, Seigneur. Puissions-nous avoir la liberté de parler et d'écouter, et puissions-nous aussi accéder à la foi pour croire ce que nous avons entendu, comme cela vient de la parole de Dieu, afin que cela produise en nous la vie éternelle, au grand jour qui doit venir. Bénis-nous aujourd'hui, reprends-nous quand nous sommes dans l'erreur, fais-nous connaître les fautes que nous avons commises, et bénis-nous dans la voie qui est juste, afin que nous puissions savoir dans quelle direction aller et comment agir dans le monde présent, afin que par nos vies, nous puissions glorifier le nom de Jésus-Christ qui est mouru pour nous, donner la vie dans le glorieux au-delà. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Je désire lire ce matin 2 passages des Écritures. L'un d'eux se trouve dans le livre de l'Exode. En fait, les 2 se trouvent dans le livre de l'Exode. L'un au chapitre 13, au verset 21-22, et l'autre au chapitre 14, les versets 10, 11 et 12. Je vais lire maintenant dans Exode 13-21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Maintenant, dans Exode 14, est le verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Je vais encore lire quelques versets. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. » Maintenant, écoutez attentivement. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi t'écris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, et dans ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, tes chars et tes cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de la nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » La parole du Seigneur est si merveilleuse, si bonne, qu'il n'y a pas moyen de s'arrêter de la lire. Elle devient vivante alors que nous la lisons. Je pense que dans ce texte ce matin, bien que cela soit enregistré, je désire dire ceci pour commencer. Je découvre que je est la raison pour laquelle hier, alors que j'étudiais, je suis arrivé à choisir ce sujet. Et j'ai alors pensé, je vais, si le Seigneur le veut, parler là-dessus, parce que cela m'accable. Et j'espère que cela nous accablera tous, afin que nous puissions voir, que cela nous fasse regarder en haut et étudier un peu en comparant le jour d'alors avec le jour d'à présent. Je désire prendre trois mots comme texte, et c'est « Pourquoi crier, parle ?» Dieu dit à Moïse, ici au verset 15, Pourquoi s'écrit « Parle au peuple et qu'il marche » Donc, pourquoi crier « Parle » Nous avons là un bon sujet et j'essaierai de me dépêcher autant que possible comme le Saint-Esprit me conduit. Je désire, avec ce texte, penser à Moïse qui criait à Dieu dans un moment d'adversité et Dieu réprimanda Moïse juste au moment de l'épreuve. Il semble que c'est naturel pour une personne de crier alors qu'elle réprimande lorsque Dieu la reprend pour avoir dit cela, pour avoir crié à lui. Il semble que c'est une chose très dure. Souvent, lorsque nous regardons dans l'Écriture, selon notre propre façon d'interpréter, cela semble très dur. Mais si nous étudions un peu, nous découvrons que le Dieu infiniment sage sait ce qu'il fait. Et il sait comment faire ces choses et comment traiter avec les hommes. Il sait ce qui est dans l'homme. Il le connaît. Mais pas nous. Nous savons cela seulement du côté intellectuel. Il sait ce qui est réellement dans le cœur. Lorsque Moïse vint au monde, c'était un garçon doué. Il naquit pour être un prophète, un libérateur. Il naquit avec l'équipement déjà en lui. De même que chaque personne qui vient au monde naît avec cet équipement. Je crois fermement dans la préscience de Dieu et dans la prédestination. Ce n'est pas que Dieu veuille qu'il y en ait qui périssent, mais au contraire que tous puissent venir à la repentance. Mais étant Dieu, il devait connaître, et il connaît effectivement la fin dès le commencement. Voyez-vous, s'il ne connaît pas cela, alors il n'est pas infini. Et s'il n'est pas infini, il n'est pas Dieu. Ainsi, il ne voulait pas certainement qu'il y en ait qui périssent, mais il savait qui périrait et qui ne périrait pas. La raison, le but même pour lequel Jésus vint sur la terre, était de sauver ceux que Dieu, au travers de sa préscience, avait vu qu'il désirait sauver. Parce que le monde entier était condamné. Je ne vois pas comment nous pourrions enseigner cela d'une autre façon qu'en parlant de la préscience de Dieu. Et la Bible dit clairement qu'il connaît la fin dès le commencement et qu'il peut le dire. C'est pourquoi lorsqu'une personne essaie d'être quelque chose qu'elle n'est pas, elle en fait simplement une imitation. Et tôt ou tard, vous serez démasqué. Vos péchés vous démasquent. Vous ne pouvez pas les couvrir. Il n'y a qu'une chose qui couvre le péché, c'est le sang de Jésus-Christ. Elle ne peut pas être appliquée à moins que Dieu vous ait appelé dès la fondation du monde. C'est pour cela que le sang fut répandu, pas pour qu'on le foule aux pieds, qu'on se moque de lui, qu'on le méprise ou qu'on parle mal de lui. Mais c'était dans un but précis. C'est vrai, pas pour qu'on se joue de lui, pas pour l'imiter en disant que les péchés sont couverts quand ils ne le sont pas. Et aucun homme ne peut avoir ses péchés couverts à moins que son nom ait été mis sur le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Jésus lui-même a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, et tout ce que le Père me donne viendra à moi. » Vous ne pouvez pas changer le sens des mots. Ils sont là pour témoigner de la vérité et pour corriger. Moïse naquit avec un don de foi. Moïse avait une grande foi. Nous voyons cela se manifester en lui par la suite. Il naquit dans une grande famille. Son père et sa mère venaient de la famille de Lévi. Ici, au commencement du livre de l'Exode, il est décrit si merveilleusement la vie de ce grand personnage. Il était l'un des plus grands personnages de la Bible, car il est exactement un type du Seigneur Jésus. Il eut une très étrange naissance, comme le Seigneur Jésus. Il naquit dans un temps de persécution, comme le Seigneur Jésus. Il naquit pour être un libérateur, comme le Seigneur Jésus. Ses parents le cachèrent pour le protéger de l'ennemi, comme le Seigneur Jésus. Il commença son ministère, comme le Seigneur Jésus. Il était un leader, comme le Seigneur Jésus. Il était un prophète, comme le Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. J'ai une façon étrange de préparer un texte. Dieu, des centaines d'années avant cela, Dieu avait dit qu'Israël soit dans sa mère. Il savait ce qui allait arriver, se rater. Et se peut que sa foi soit redescendue un peu. Mais lorsqu'il arriva au buisson, Dieu dit, « J'ai entendu les cris de mon peuple. Et je me souviens de la promesse que j'ai faite à leurs pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et je suis descendu, je, le pronom personnel, je suis descendu pour les délivrer. Et maintenant, puis-je ajouter ceci, et que Dieu me pardonne si cela sonne sacrilège. Je ne fais rien sur la terre si ce n'est au travers d'hommes. Je suis le cep, vous êtes les sarments, et je peux seulement m'exprimer au travers d'un homme, et je t'ai choisi, et je t'envoie pour les en faire sortir. Voyez-vous, notez cela, je serai avec ta bouche, et je prends ce bâton, et Moïse dit, puis-je voir l'évidence que tu m'as envoyé, et que tu m'as oint, et que tu vas faire ces choses? Il dit, qu'as-tu dans la main? Il répondit, un bâton. Il dit, jette-le par terre. Elle se changea en un serpent. Et Moïse s'enfuit. Il dit, ramasse-le. Elle se changea de nouveau en un bâton. Il dit, mets ta main dans ton sein. Il la retira. Elle était couverte de lèpre. Il la remit, elle fut guérie. Il vit la gloire de Dieu. Moïse n'avait plus de questions. Avez-vous remarqué qu'il n'est jamais retourné dans le désert? Il savait qu'il était loin. Il savait où étaient toutes ces choses qui avaient été dans son cœur. Des grandes qualités qui étaient aux pointes. Maintenant, il est prêt. Il est prêt à partir. Ainsi, il s'en va vers l'Égypte. Dieu lui avait dit, « Je serai avec toi. » Ainsi, cela était réglé. Ce « Je serai avec toi » était tout ce que Moïse devait savoir pour ce glorieux appel dans son cœur. Et Dieu avait dit, « Je serai avec toi. » Dieu avait aussi confirmé la revendication de Moïse. Moïse prétendait qu'il avait rencontré le Seigneur. Et Dieu lui dit, « Dis-leur que c'est « Je suis » qui t'envoie, voyez-vous. Et dire, voici un homme, un autre juif. C'est probablement un de ces fanatiques qui vient, comme nous en avons eu tout le temps, avec toutes sortes de projets pour nous libérer de l'esclavage. Et vous savez comment sont les gens lorsqu'ils sont des esclaves ou en esclavage pour une certaine raison, et croient toujours à une espèce de truc qui arrive pour faire cela. Dieu avait promis à Moïse, disant, « Je serai avec toi, je serai en toi, mes paroles seront tes paroles. » Tu prononceras mes paroles et tu diras simplement ce que j'ai dit. Lorsque Moïse descendit, elle leur fit entendre cet appel et se tint devant Pharaon, lui disant que l'Éternel, Dieu des Hébreux, leur avait dit, fais sortir les enfants d'Israël et ne voulait pas les laisser partir. Ainsi Moïse accomplit un signe devant les anciens et devant Pharaon. Et Dieu fit tous ces signes. Il dit, demain à ce moment, le soleil descendra, il y aura les ténèbres sur toute l'Égypte. Et cela arriva exactement. Ensuite, il dit, des mouches viendront sur le pays. Et il étendit son bâton, et il réclama des mouches, et les mouches arrivèrent. Et il prophétisa, et tout ce qu'il avait prophétisé arriva exactement, car c'était Dieu, voyez-vous. Dieu l'avait appelé dès sa naissance. Il avait mis en lui les qualités d'une grande foi. Ensuite, il descendit avec sa présence et oignit cette grande chose qui était en lui, et l'envoya avec sa parole. Ainsi, il était correctement justifié de ses prétentions. Peu importe combien il y avait de charlatans et combien il y avait d'autres choses qui arrivaient, Dieu parlait et Moïse était identifié. Ce que Moïse disait, Dieu l'honorait. Je veux que vous n'oubliez jamais ce mot. Ce que Moïse disait, Dieu l'honorait parce que la parole de Dieu était en Moïse. Je serai avec ta bouche, tu prononceras les choses d'une façon correcte. Ce que Dieu disait, il le disait au travers de Moïse, et cela confirmait et justifiait ses prétentions. Aussi, sa mère lui parla de sa naissance mystérieuse et du temps devenu proche où il devait y avoir une délivrance. Amram et Jochebed, le fils et la fille de Lévi, commencèrent à prier Dieu d'envoyer un libérateur. Et lorsque vous voyez que le temps de la promesse est proche, cela pousse les gens à prier et à avoir soif de cela. Et sans doute, Jochebed lui avait dit souvent, c'était sa mère, elle était aussi son tuteur, comme l'histoire nous le fait connaître, elle lui avait dit combien elle avait prié. Moïse, mon fils, lorsque tu vins au monde, tu étais le fils attendu. Tu étais différent des autres. Quelque chose arriva à ta naissance. J'ai donné une illustration pour les enfants il n'y a pas longtemps. Et j'ai dit que pendant qu'Abraham était dans sa chambre et priait, il vit un ange tirer son épée et la diriger vers le nord et dire, tu auras un enfant. Et il emmènera les enfants d'Israël en direction du nord, la terre promise. J'ai donné ainsi une illustration pour que les petits-enfants comprennent cela. Leur intelligence n'est pas arrivée au stade où, comme pour adulte, elle peut saisir la chose telle que le Saint-Esprit vous la révèle. Bien que sa mère lui ait dit ces choses et qu'il savait cela, il avait besoin cependant d'un autre contact. L'enseignement était bon, mais il avait besoin d'un contact personnel. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. C'est ce dont chacun a besoin en tant que fils et fille de Dieu. Afin d'être cela, vous avez besoin d'un contact personnel. Voyez-vous, vous savez que la parole est vraie, vous savez qu'elle est juste, mais lorsqu'il y a ce contact et que vous voyez la chose se faire, alors vous savez que vous êtes sur la bonne route. Voyez-vous, et cela sera toujours scripturaire. Cela s'accordera avec l'Écriture, parce que cela le fut ici. La prière d'Amram s'accordait exactement avec l'Écriture. Leur prière était en accord avec la parole promise. Dieu avait promis de faire cela à ce moment-là. Ils prièrent pour cela et l'enfant attendu vint au monde. Regardez bien, oh, comme j'aime ceci. Dans l'heure où Pharaon mit à mort tous les enfants, voyez-vous, ils tuèrent ces petits-enfants par l'épée. Elles jetèrent leurs petits corps aux crocodiles, jusqu'à ce que les crocodiles soient peut-être devenus gras en mangeant les corps des enfants hébreux. Mais la Bible dit que les parents ne craignirent pas l'ordre qu'avait donné Pharaon de tuer les enfants. Ils n'avaient pas peur parce qu'ils avaient vu, dès le commencement, quelque chose de ce bébé. Ils avaient vu là une réponse à leur prière. Par tous ces signes du passé, Moïse savait qu'il était envoyé dans le but de délivrer les enfants d'Israël. Tout ce passé se concrétisait. Lorsque vous recevez quelque chose et que vous pouvez le confirmer par la Bible et dire, ceci va arriver, et le voici qui arrive. Il y aura cela à tel moment, et le voilà qui arrive. Cela va arriver à tel moment, et le voilà qui arrive. Alors tout cela s'accumule et dessine pour nous une image. Oh, si ce tabernacle ce matin, si nous, gens de cette heure, frère Neville, comme nous voyons nos cheveux qui deviennent gris et nos épaules qui s'arrondissent, et que nous voyons le monde tituber et vaciller, oh, si nous pouvions regarder autour de nous et voir que la promesse est près de se réaliser. J'ai souvent pensé que si quelqu'un pouvait comprendre cela immédiatement, il bondirait presque jusque dans l'éternité avec quelque chose comme l'enlèvement et sans jamais le savoir. Oh, seulement pénétrer dans les choses que nous avons vues, que nous connaissons et que nous comprenons, et y pénétrer tous à la fois. Cet homme ou cette femme, ce garçon ou cette fille, lèverait probablement les mains, dirait, allons-y, Seigneur Jésus. Voyez-vous, oh, l'heure est si proche. Moïse, sachant qu'il était né dans ce but-là, regarda dehors par les fenêtres et observa ces Hébreux qui travaillaient durement. Il regarda ensuite dans l'Écriture qui disait, « Et ils séjourneront là-bas 400 ans, mais je les ferai sortir avec une main puissante. » Après que Moïse ait reçu sa commission et son onction, il revint. Il savait qu'il était né, et sa foi, et par la foi, il vit ces gens et sut qu'ils étaient les enfants de Dieu, parce que la parole le disait. Ils n'étaient pas du monde, ils n'étaient pas comme les autres, ils étaient différents, ils étaient des originaux et des fanatiques vis-à-vis du grand prestige de l'Égypte. Lui devait être le fils de Pharaon et ensuite reprendre le royaume, mais il y avait quelque chose en lui, une foi réelle qui ne regardait pas à ces choses et au prestige qu'il allait hériter. Il regarda à la promesse de Dieu et il sut que le temps était proche. Est-ce que cet homme doit avoir pensé de « Je veux parler de cela un jour avec lui lorsque je le rencontrerai de l'autre côté. » Vous dites « C'est de la folie, frère. » Non, ce n'en est pas. Je vais le rencontrer par la grâce de Dieu. Oui, monsieur, un jour je parlerai à Moïse lui-même. Combien j'aimerais lui demander comment il se sentit lorsqu'il vit sa préparation et l'agitation que le diable produisit lorsqu'il dit « Ah, les gens ne vont pas te croire. Ah, il n'y a rien de valable dans tout cela. » Mais lorsque cette semence va à la vie, quelque chose le frappa. Et il sut que quelque chose allait arriver. Il regarda sa montre et il vit l'heure qu'il était. Et il savait cela. Combien il dut réfléchir alors qu'il observait cela. Quand il eut rassemblé tout cela et toutes ces grandes choses qu'il avait vues, le temps indiqué par l'Écriture, les prières de sa mère et de son père, sa naissance particulière, puis sa vie, étrange comme enfant, tout le temps il avait eu quelque chose là tout au fond de son cœur. Et un jour il s'esquiva et pensa qu'il pourrait utiliser sa formation militaire reçu à l'école pour délivrer les enfants d'Israël. Et ce fut un échec. Ensuite, il alla dans le désert, et là il épousa une charmante jeune fille éthiopienne. Elles eurent un petit garçon qu'ils appelèrent Gershom. Un jour qu'il surveillait le troupeau, il vit tout à coup un buisson au sommet de la montagne qui brûlait. Il y monta, et ce n'était pas une chose intellectuelle, ou une imagination, une hallucination, ou une illusion d'optique. Mais il y avait le Dieu d'Abraham dans une lumière, une colonne de feu dans un buisson. Et il en sortait comme des vagues de feu, mais cela n'affecta pas le buisson. Et la voix de l'Écriture, la voix de Dieu, lui parla au travers de cela, et lui dit, « Je t'ai choisi. C'est toi l'homme. Je t'ai suscité dans ce dessein. Je te prouve ici par des signes que tu vas aller délivrer les enfants d'Israël parce que ma parole doit s'accomplir. Oh, sa parole pour ce jour-ci doit s'accomplir. Nous vivons dans cette heure-là. Peu importe ce que quiconque dit, la parole doit s'accomplir. Les cieux de la terre passeront, mais pas sa parole. » Comme Moïse eut mis tout cela ensemble et qu'il en eut compris le sens, cela stimula sa foi. Amen. Oh là là, quelle pensée! Le fait de voir dans l'Écriture qu'elle indiquait exactement ce que c'était et que Dieu lui parla, l'évidence qu'il y avait là, tout cela stimula la foi qu'il avait en lui et le poussa à aller travailler. Que cela devrait-il nous faire? Nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin d'un réveil. Je parle de moi. J'ai besoin d'être secoué. J'ai besoin de quelque chose. J'ai dit que je parlais pour moi ce matin, ou à mon sujet. J'ai besoin d'être réveillé. Quand je pense à cette grande évidence, tout est si parfaitement déclaré. Et cela stimula la foi de Moïse. Et il vit qu'il n'y avait rien. Le voici qui fuit de l'Égypte. Alors qu'il aurait pu commencer une révolte ou quelque chose. Il aurait pu se lever et commencer une révolution en Égypte et prendre une armée et se battre. Mais voyez-vous, et en avoir des milliers de son côté. Mais il eut même peur de faire cela avec des armées de son côté. Mais maintenant, il revient, 40 ans plus tard, lui âgé de 80 ans, avec seulement un bâton dans sa main. Pourquoi? Parce que ce qui brûlait au fond de son cœur était devenu une réalité. Était alors loin. Elle savait qu'il avait le « Ainsi dit le Seigneur ». Rien ne pouvait l'arrêter. Il n'avait pas besoin d'armée. Dieu était avec lui. C'est tout ce dont il avait besoin, que Dieu, que d'avoir Dieu avec lui. Oh, quand vous savez que Dieu vous a envoyé faire une certaine chose et que vous le voyez agir là-bas, il n'y a rien qui puisse prendre la place. C'est tout. Je me souviens des nombreuses fois où le Seigneur me dit que certaines choses allaient arriver. Lorsque je suis allé, que j'ai vu que cela se trouvait là, oh, quelle impression! La situation est déjà sous contrôle, c'est tout, voyez-vous, parce que Dieu l'a dit. Je me souviens, beaucoup parmi vous se souviennent de ce petit garçon qui fut ressuscité des morts en Finlande, après avoir été tué par une automobile. Je me tenais là, au bord de la route, et je commençais à m'éloigner de cet enfant. Je me tournais, et je regardais en arrière, et quelqu'un mit sa main sur mon épaule. Je pensais que c'était frère mort, mais personne était autour de moi. Et je regardais en arrière, et ensuite je regardais vers la montagne. Je pensais, mais j'ai vu cette montagne quelque part. Pourtant, nous ne sommes pas venus par là. Nous sommes venus d'une autre direction. Où est cette colline? Et je regardais cette voiture là-bas en bas, qui était démolie, et ce petit garçon qui était descendu là, avec ses cheveux coupés courts, ses yeux révulsés, comme étaient ceux de frère Way l'autre jour lorsqu'il s'est fait ça, et le petit pied qui sortait de la chaussette, où ses petits membres étaient brisés, et le sang qui sortait de ses yeux, de son nez et de ses oreilles. Et je voyais ses petits pantalons courts attachés par des boutons sur le côté de sa poitrine et ses petites chaussettes montantes comme nous en portions il y a plusieurs années. Et je regardais tout autour de moi. Et c'était exactement semblable à ce que le Saint-Esprit avait dit 2 ans auparavant et que vous tous, au travers du pays, aviez inscrit dans vos Bibles disant que cela arriverait. Oh! Alors la situation est maîtrisée. Peu importe dans quel état il est, peu importe ce que quiconque peut dire, c'est en ordre, il doit revenir à la vie. Je dis alors, si cet enfant ne ressuscite pas des morts, je suis un faux prophète, je suis une fausse représentation de Dieu. Car dans ma patrie, il y a 2 ans, il m'a dit que ceci arriverait. Et c'est écrit sur la feuille volante de la Bible de ses prédicateurs. Et voilà exactement la chose. Si vous lisez sur la page volante, il est dit que ce serait dans un pays où il y a un amoncellement de rochers, et qu'il serait tué, et qu'il se trouverait sur le côté droit de la route. Je dis, le voilà, rien ne peut l'arrêter. La situation est déjà sous contrôle. La foi qui était dans mon cœur fut stimulée. Oh, si je pouvais seulement expliquer cela. La foi que Dieu, que j'avais en Dieu, qui m'avait dit qu'il ne faillirait jamais. Dieu me dit, la situation est maintenant sous contrôle. Voilà exactement ce que je t'avais montré il y a 2 ans. Et tout se trouve là, exactement dans l'ordre. La seule chose que tu dois faire, c'est de prononcer la parole. Et le petit garçon ressuscita des morts. Voyez-vous? En regardant là, et en voyant frère Fred Softman, frère Bankswood et les autres, cela me fait penser à ce qui arriva sur la route de l'Alaska. Et comme je vous avais parlé à tous d'un animal qui ressemblait à un cerf avec des bois de 105 cm de long et d'un ours grizzly avec une partie argentée, je n'étais jamais allé là-bas auparavant. Et je vous ai dit que j'allais l'attraper et comment il serait et combien de personnes il y aurait avec moi et comment elle serait vêtue. Vous le saviez chacun d'entre vous, des semaines avant que cela arrive. Et lorsque je suis allé là-bas, ne sachant pas cela, il y avait cet animal. Et c'est impossible. Si un chasseur écoutait cette bande, il saurait que vous ne pouvez pas marcher en face d'un animal, car il ferait un saut sur ses jambes et se mettrait à courir. Mais celui-ci ne le fit pas. Il est suspendu dans mon bureau, et l'ours, qui a une partie argentée, s'y trouve aussi. Et il y a 1 centimètre pour mesurer la longueur des bois. Un bois se rétrécit d'au moins 5 centimètres, depuis le moment où il est vert sur l'animal jusqu'au moment où il est sec. Mais celui-ci ne s'est jamais rétréci. Il mesure toujours exactement 105 centimètres. Il y a là l'ours. Elle mesure exactement 2,10 mètres de long. Et tout est encore maintenant exactement comme c'était alors. Mais lorsque cet homme me dit, « Maintenant, regardez, frère Branham, nous avons cet animal dont vous parliez. Mais vous m'aviez dit que vous attraperiez un grizzly avec une partie argentée avant que nous arrivions au bas de la colline où il y a ces garçons et celui avec la chemise verte. » Je lui dis, « C'est ainsi dit le Seigneur. Dieu l'a dit. » Mais frère Branham, dit-il, « Je peux voir sur des kilomètres ici tout autour. Mais il n'y a rien. D'où viendra-t-il ? » Je répondrai, « Ce n'est pas à moi de demander. Dieu l'a dit, et le Jéhovah Jireh. Il peut amener là un ours. Il peut en mettre un là. » Et il le fit. Et le voya. C'est une situation sous contrôle. Et lorsque Moïse vit qu'il était élevé dans ce but et qu'il avait rencontré face à face ce grand Dieu qu'il avait appelé, voit et identifié, et qu'il lui avait dit, c'est ton appel, Moïse. Je t'envoie. Je vais te montrer ma gloire. Et je suis ici dans le buisson ardent. Va là-bas et je serai avec toi. Il n'avait même pas besoin d'un bâton. Il avait la parole confirmée. Et il s'en alla. Cela stimula la foi qui était en lui. Et cela nous stimule lorsque nous voyons que nous vivons dans les derniers jours et que nous découvrons que tous ces signes arrivent. L'Écriture dit qu'ils arriveraient dans les derniers jours, allant du ciel aux puissances politiques, à la nature des gens, la démoralisation du monde et le comportement des femmes, ce qu'elles feraient dans les derniers jours, ce que les hommes feraient, ce que les églises feraient, ce que les nations feraient et ce que Dieu ferait. Nous le voyons devant nous. Oh, cela stimule notre foi. Cela nous amène dans de grands cycles, voyez-vous. Cela nous sépare des autres choses du monde. Peu importe combien nous sommes petits, combien nous sommes une minorité, combien l'on se rit de nous et l'on se moque de nous, cela ne fait aucune différence, c'est tout. Nous le voyons. Et il y a quelque chose au-dedans de nous. Nous étions prédestinés à voir cette heure et rien nous empêchera de la voir. Amen. Assurément, Dieu l'a prononcé. Cela est déjà arrivé. Nous le voyons. Oh, combien nous remercions Dieu pour ceci. Oh, cela fait grandir notre foi lorsque nous voyons ces choses arriver ici. Nous lisons ici de nouveau que Moïse regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il regarda l'opprobre de Christ. Maintenant, souvenez-vous, l'opprobre de Christ. Voyez-vous? Il y a de l'opprobre à servir Christ. Si vous êtes très populaire pour le monde, alors vous ne pouvez pas servir, vous ne servez pas Christ. Non, vous ne le pouvez pas parce que, voyez-vous, il y a de l'opprobre qui va avec cela. Le monde a toujours contesté cela. Il y a des milliers d'années, il y avait de l'opprobre qui allait avec cela. Et Moïse, le futur pharaon, qui devait succéder à Pharaon, étant son fils, il allait devenir le nouveau pharaon ayant la faveur des gens. Et cependant, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tout ce que l'Égypte pouvait bien lui donner. L'Égypte était dans sa main. Pourtant, il savait qu'il y avait de l'opprobre à prendre la voie de Christ. Mais il était si heureux de savoir qu'il y avait quelque chose en lui qui le faisait regarder l'opprobre de Christ comme quelque chose de plus grand que tout ce que le prestige qu'il avait hérité. Il avait un héritage au-dedans de lui qui était de beaucoup plus grand que ce que l'héritage extérieur lui avait donné. Oh, si nous pouvions être comme cela aujourd'hui, et laisser le Saint-Esprit oindre ce que nous avons en nous, cette foi, elle a changé une vie pieuse et consacrée à Christ. Avec une foi telle que celle qu'il avait, il considéra cet opprobre comme un honneur. Aujourd'hui, quelqu'un dit, « Hé, êtes-vous dans cela ? C'est, vous êtes un peu honteux de cela. » Mais il regarda cela comme un trésor plus grand que tout ce que le monde pouvait lui offrir. Parce qu'il y avait quelque chose en lui dont il pouvait parler et dire, « Oui, je regarde à ceci. Ceci est hautement honoré. Je suis content d'être l'un d'eux. » Voyez-vous, je suis content d'être compté au nombre des Hébreux plutôt que des Égyptiens. Les chrétiens aujourd'hui devraient dire la même chose. Je suis content de me considérer un chrétien et de m'abstenir des choses du monde et de l'ordre du monde. Pas simplement comme un membre d'Église, mais comme un chrétien né de nouveau qui vit en accord avec l'Écriture. Bien que je sois appelé même par des membres d'Église un fanatique, je regarde néanmoins cela comme une chose plus grande que si j'étais la personne la plus populaire de la ville ou de la nation. Je préfère cela que d'être président des États-Unis ou roi sur la terre. Voyez-vous, je regarde cela avec une très haute estime, parce que Dieu, dans sa miséricorde, m'a vu avant la fondation du monde et a placé une petite semence là, afin que ma foi monte au-dessus des choses du monde. Et maintenant, il m'a appelé, et je regarde ma place, comme Paul le disait de son ministère, avec une haute estime. Oh, le privilège que Dieu l'ait appelé et l'ait empêché d'être un grand docteur comme Gamaliel, pour devenir un sacrifice pour Christ. Et là, c'est la même chose. Notez cela. Avec une telle foi, il ne se fia jamais à sa vue, à ce qu'il pouvait voir. Il ne voyait là-bas rien qu'un tas de travailleurs maniant la boue, d'esclaves, de prisonniers que l'on tuait chaque jour, que l'on battait avec des fouets et qui recevaient la moquerie. Leurs croyances religieuses étaient fanatiques. Et il y avait un pharaon qui était assis sur le trône, qui ne connaissait ou qui n'avait pas d'estime pour leur religion. Il ne savait rien concernant. Il était un païen, agile, comme c'est l'image d'aujourd'hui. Est-ce cela une religion différente? Est-ce Moïse qui était pourtant assis avec le président ou le grand homme pharaon et qui allait prendre sa place à sa mort car il était âgé? Moïse pensait que cet appel. Il regarda dehors par la même fenêtre où Pharaon regardait, parce qu'il était dans sa maison. Et Pharaon regarda dehors et vit ces gens qui levaient leurs mains, à qui on infligeait le fouet jusqu'à ce que mort s'en suive, parce qu'ils priaient. On les transperçait avec une épée, parce qu'une fois, ils n'obéissaient pas, et on les faisait travailler jusqu'à ce que leur corps usé tombe d'épuisement. Et on leur donnait à moitié à manger. Ce n'était rien d'autre qu'un tas de fanatiques, à peine des humains. Et pourtant Moïse, ayant cette foi en lui, les regarda et dit, « Ils sont le peuple béni de Dieu. » Amen. J'aime cela. Avec une telle foi, ses yeux ne se posèrent pas sur le prestige de l'Égypte, ils se posèrent sur la promesse de Dieu. Son œil d'aigle de la foi voyait au-delà du prestige de l'Égypte. Souvenez-vous qu'il devient maintenant un aigle, il est un prophète, et son œil d'aigle voit au-dessus de ces choses. Oh, combien j'aime cela! Combien devrions-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, les chrétiens se fient à leur sens, et sur ce qu'ils peuvent voir ou ce qu'ils peuvent comprendre, plutôt que sur leur foi. Vous fiez à ce que vous voyez de vos yeux et au prestige. C'est comme vous, les femmes. Je répète toujours que vous devez laisser croître vos cheveux et que vous ne devez pas porter de maquillage et que vous devez agir comme des dames et comme des chrétiennes. Regardez dans la rue et vous verrez combien les femmes aujourd'hui sont habillées d'une façon immorale. Vous pensez, elle appartient à l'Église, pourquoi ne puis-je pas faire cela? Voyez-vous, elle coupe ses cheveux, pourquoi ne puis-je pas faire cela? Elle semble être aussi douce et aussi intelligente que les autres. Elle a même plus de personnalité que moi. Oh, pourquoi ne puis-je pas faire cela? Je devrais le faire. Lorsque vous faites cela, vous paralysez votre foi. Voyez-vous, vous ne devez pas, vous ne donnez pas à votre foi une chance de grandir. Commencez avec cela. Quelqu'un m'a dit,
Cabranam, le pays, les gens vous considèrent comme un prophète. Vous ne devriez pas crier contre les femmes comme vous le faites, et contre les hommes pour ces choses. Vous devriez leur enseigner leur comment prophétiser et recevoir des dons. Je répondis, comment puis-je leur enseigner l'algèbre quand ils ne connaissent même pas leur ABC? Maintenant, commencez depuis là. Purifiez-vous, afin que lorsque vous marchez dans la rue, vous ressembliez à une chrétienne, voyez-vous? Et ensuite, agissez comme l'une d'elles. Et vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Ce doit être Christ qui vient en vous. Et si cette semence se trouve là, que cette lumière la frappe, elle viendra à la vie. Et si elle ne vient pas à la vie, c'est qu'il n'y a là rien qui puisse venir à la vie. Car cela a été prouvé. Elle vient à la vie immédiatement et aussitôt que la lumière la frappe. C'est une réprimande pour les femmes, je le sais, qui écoutent cette bande ou qui écouteront cela. C'est une réprimande pour vous, sœurs. Cela devrait l'être. Cela devrait l'être parce que cela montre, peu importe ce que vous avez fait, vous pouvez avoir été religieuse toute votre vie. Vous pouvez avoir vécu dans l'église, votre père peut être un prédicateur, ou votre mari peut être un prédicateur. Mais aussi longtemps que vous désobéissez à la parole de Dieu, cela montre qu'il n'y a pas de lumière en vous. Lorsque vous voyez la chose mise en évidence et qu'il y a là la vie du Saint-Esprit, observez cela lorsque cela en frappe d'autres. Regardez ce qu'ils font. Si cela amène cela sur eux, ce n'est pas étonnant. Quelle réprimande pour ces pharisiens qui appelaient Jésus Belzébul lorsqu'ils virent qu'ils pouvaient percevoir leurs pensées et que cette petite prostituée déclara « Mais cet homme est le Messie !» Les Écritures disent qu'il fera ceci, voyez-vous? Cette semence prédestinée se trouvait là, et quand la lumière la frappa, elle va dans la vie. Vous ne pouvez la retenir, vous ne pouvez cacher la vie. Vous pouvez verser du ciment sur de l'herbe et la tuer pendant l'hiver. Le printemps suivant, où est la majeure partie de cette herbe? Tout autour du bloc de ciment. Parce que lorsque le soleil commence à briller, et que cette semence est sous cette pierre, vous ne pouvez la retenir. Elle va se frayer un chemin en se tortillant sur cela. Elle va ressortir au bord de cette chose, élever la tête à la gloire de Dieu. Voyez-vous, vous ne pouvez cacher la vie. Que le soleil frappe la vie botanique, elle doit vivre. Et que le Saint-Esprit frappe la vie scripturaire qui est dans un homme, cela produit son fruit à ce moment-là. Ainsi, sans regarder combien vous êtes fidèles et honnêtes, et combien vous dites que vous ne parlez pas, ces femmes qui portent ces vêtements indécents, ce n'est que du vulgaire striptease dans la rue. Bien que vous ne croyez pas que c'est ce que vous êtes, que vous ne pouvez pas le croire, vous essayez encore de prouver que vous n'êtes pas coupable d'adultère, alors que le livre de Dieu dit que vous commettez adultère. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et vous vous êtes présenté de cette manière, voyez-vous? Vous ne pouvez pas le voir à moins que cette vie s'y trouve. Vous regardez à quelqu'un d'autre et vous dites, « Je connais Sir Jones, frère Jones est un prédicateur, et sa femme fait ceci, elle fait cela. Peu m'importe ce qu'elle fait, ceci est la parole. » Jésus a dit, « Que toute parole d'un homme soit un mensonge, et la mienne soit vraie. » C'est la Bible, et quand cette lumière la frappe vraiment, elle doit venir à la vie. Elle doit venir à la vie. Les grands yeux de Moïse, son œil d'aigle, regarda au-delà du prestige de l'Égypte. Pour les véritables croyants chrétiens d'aujourd'hui, peu leur importe ce que l'Église dit, ce que quiconque dit, mais lorsque cette lumière frappe la semence, ils voient là la confirmation de Dieu, et cette colonne de feu étant présente avec les signes et miracles promis. L'Écriture confirme cela, elle vient à la vie. Peu importe s'ils ne sont qu'une minorité, le groupe de Dieu a toujours été une minorité, voyez-vous? Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ils saisissent cela. S'ils sont ordonnés à la vie, Dieu est obligé de les sortir de toutes les dénominations, tous les ordres, de partout pour voir cela. Regardez au vieux Siméon qui était ordonné à la vie. Lorsque le Messie entra dans le temple, sous la forme d'un bébé qui était dans les bras de sa mère, Siméon qui était quelque part dans une pièce qui lisait, le Saint-Esprit le fit lever car il attendait. Cette vigne était en lui. Il dit, « Je ne mourrai point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Et le Christ du Seigneur était dans le temple. Le Saint-Esprit le conduisit hors de l'endroit où il était. Il marcha jusque là-bas et prit ce bébé, disant, « Laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Il y avait une vieille femme aveugle dans le coin du nom d'Anna, qui servait le Seigneur jour et nuit. Elle avait aussi prédit par ses paroles, « Le Messie vient, je peux le voir venir. » Pourtant, elle était aveugle. Mais au moment de sa venue, cette petite vie qui était en elle, qui prédisait que cela serait là, cette même vie la lumière elle-même va dans le bâtiment sous la forme d'un bébé, d'un enfant illégitime, emmailloté dans ses langes, et venant au travers du bâtiment. Le Saint-Esprit frappa alors cette vieille femme, aveugle, elle vint vers les gens conduites par l'Esprit, elle se tint au-dessus de ce bébé. Elle bénit la mère et l'enfant, elle lui prédit son avenir. Voyez-vous, ordonnez à la vie. Voyez-vous, regardez. Il n'était pas une douzaine. Il y avait seulement 8 âmes qui furent sauvées au jour de Noé, à peine quelques-unes. Mais tous ceux qui étaient ordonnés à la vie entrèrent à ce moment-là. Voyez-vous comment le Saint-Esprit opère dans chaque âge, attirant les gens? Maintenant, nous découvrons que la foi de Moïse le conduisit à considérer ce qui serait, pas ce qui était. Regardez à demain plutôt qu'à aujourd'hui. Regardez à la promesse plutôt qu'au prestige. Regardez aux gens plutôt qu'à l'organisation. Voyez-vous? Dieu fit cela. Lot put voir le prestige de la prospérité dans Sodome. Lot put voir les possibilités qu'offrait le fait d'avoir beaucoup d'argent. Lot put voir, en regardant vers Sodome, la possibilité pour lui de devenir peut-être, étant en hébreu, un grand homme là-bas, parce qu'il était une grande figure intellectuelle et le neveu d'Abraham. Il choisit ainsi d'aller vers Sodome. L'intelligence de Lot le conduisit à voir le prestige de la prospérité. L'intelligence de Lot le conduisit à voir les bénédictions du prestige. Mais sa foi était si paralysée par cela qu'il ne vit pas le feu qui allait détruire ce genre de vie. Et c'est ainsi que sont les gens aujourd'hui. Ils voient les possibilités qui leur sont offertes en appartenant à une grande organisation ou en ayant une position sociale avec les gens de la ville. Mais ils ne voient pas la possibilité. Ils ne voient pas que leur foi est paralysée. Laissez-moi répéter cela, afin que cela ne soit pas mal compris. Les femmes aujourd'hui, comme je l'ai dit, veulent agir comme les stars de cinéma. Les hommes veulent agir comme les comédiens à la télévision. Les prédicateurs aujourd'hui semblent vouloir transformer leurs églises en une sorte de loge moderniste, avec des membres. Ils voient la possibilité de devenir peut-être un évêque ou un surveillant général ou quelque chose comme cela, s'ils continuent à s'accorder avec l'église, abandonnant les Écritures alors qu'elles se trouvent devant eux, pleinement confirmées par la puissance de Dieu et par la parole vivante de Dieu, vivante dans les gens. Cependant, ils ne veulent pas cela. Ils disent, nous ne voulons pas être associés à quelque chose comme cela. Cela leur enlèverait leur carte de membre. Cela leur enlèverait leur ordre dénominationnel. Pourtant, ce sont des hommes honnêtes comme Lot, qui étaient assis dans Sodome et qui savaient que cela était faux. Voyez-vous? Voyez-vous ce qu'ils font lorsqu'ils font cela? Ils paralysent le peu de foi qu'ils avaient. Elle ne peut pas opérer. Moïse abandonna cela. Elle plaça sa foi, paralysa le monde. Soit votre foi paralysera le prestige, soit le prestige paralysera votre foi. Vous devez prendre l'un ou l'autre. Et vous voyez que la Bible ne change pas, Dieu ne change pas, il est le Dieu qui ne change pas. Nous voyons qu'aujourd'hui les gens de ce jour regardent aux grandes choses, aux grandes organisations. J'appartiens à telle église, voyez-vous. Ils vont là-bas et regardent. Et il n'y a pas de différence avec les gens de la rue. Il n'y a pas d'autre chose. Ils ont peut-être quelque chose d'intellectuel. Mais quand vous parlez au sujet de la guérison divine, de la colonne de feu, de la lumière de Dieu, ils disent, c'est idiot. Un homme prit cette photo de l'ange du Seigneur l'autre jour, c'était un prédicateur baptiste, et se moquait de cela, voyez-vous. C'est un blasphème. Il n'y a pas de pardon pour cela. C'est ce que Jésus a dit. C'est un blasphème lorsque vous le voyez faire les mêmes œuvres que Christ fit. Et lorsqu'ils firent ses œuvres en Christ, qui était le sacrifice, ils l'appelèrent Belzébul, un démon, parce qu'il faisait cela. Mais il dit, je vous pardonne pour cela. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra et fera la même chose, si vous prononcez un mot contre lui, cela ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Un mot, c'est tout ce dont vous avez à dire contre cela. Voyez-vous? Si vous aviez été ordonné à la vie éternelle, alors cette vie jaillirait quand vous voyez cela. Vous le reconnaîtriez comme la petite femme au puits et différents autres. Mais si elle n'est pas là, elle ne peut pas venir à la vie, car il n'y a là rien qui puisse venir à la vie. Comme ma vieille mère avait l'habitude de dire, vous ne pouvez pas faire sortir du sang d'un navet, parce qu'il n'y a pas de sang en lui. Maintenant, c'est la même chose et cela paralyse le peu de foi que vous avez. Lot peut voir le prestige, mais il n'avait pas assez de foi pour voir le feu qui détruirait un tel prestige. Je me demande si nous avons cette foi aujourd'hui. Je me demande si nous, les femmes qui se veulent être populaires, qui désirent agir comme le reste des femmes de l'Église, si elles réalisent qu'elles agissent comme le reste, elles peuvent se croire plus jolies en étant fardées, ou paraître plus jeunes en coupant leurs cheveux et en agissant comme certaines stars de cinéma. Mais je me demande si cela n'a pas paralysé leur foi, sachant que la Bible dit qu'une femme qui fait cela n'est pas une fable, femme honorable. Et une femme qui met un vêtement d'homme est une abomination devant Dieu, les pantalons, etc., les shorts qu'elle porte. Ils sont devenus si insensibles pour s'être familiarisés avec toutes ces choses, voyez-vous. Je me demande s'ils ne paralysent pas le très peu de foi qu'ils avaient même pour aller à l'église. Voyez-vous, c'est la chose que cela produit. Lorsqu'il cela, et cela le paralysa, et cela paralysa aussi son peuple là-bas. Il ne pouvait pas voir cela, mais Abraham, son oncle, ayant une foi authentique, ne regarda pas au prestige, ne voulait rien avoir à faire avec cela, bien que lui et Sarah ensemble eût une vie difficile. C'était un chemin rude sur une terre desséchée, mais ils ne regardèrent pas au prestige, ni à la possibilité de devenir populaire. Sarah était la plus belle femme du pays, la Bible dit. Elle était belle, la plus belle de toutes les femmes. Elle resta et obéit à son mari, jusqu'à l'appeler son Seigneur. La Bible se réfère de cela dans le Nouveau Testament et dit, « Dont vous êtes les filles, aussi longtemps que vous obéissez à la foi. » Voyez-vous, elle appela son mari son Seigneur. L'ange du Seigneur visita le temple, ou leur petite tente là-bas, et leur dit, « Ils n'avaient même pas une maison où habiter. Ils vivaient sur des terres arides, où vous êtes aussi. » Voyez-vous, le jour se répète de nouveau exactement comme il était alors. Moïse, avec sa grande foi, pouvait dire non aux choses du monde présent et faire un juste choix. Il choisit de supporter les afflictions avec le peuple de Dieu. Il choisit d'aller avec lui. Pourquoi? Sa foi. Il vit la promesse. Il vit les temps de la fin. Il vit plus loin. Et laissa libre cours à sa foi. Il ne fit pas attention à ce que ses yeux voyaient et aux possibilités qu'il avait d'être le pharaon. Et il regarda plus loin. Oh, si les gens pouvaient seulement faire cela, ne vivez pas le monde présent. Si vous regardez au monde présent, c'est lui que vous choisirez. Détournez vos yeux de cela et regardez la promesse de Dieu pour le futur. Par sa foi, il put choisir. Il choisit d'être appelé le fils d'Abraham et refusa d'être appelé le fils de Pharaon. Comment pouvait-il le faire alors que le royaume entier, l'Égypte, dominait le monde? Il était roi du monde. Il était un jeune homme de 40 ans qui était prêt à prendre le trône. Mais il ne regarda jamais à son. Regardez aux femmes qui seraient restées autour de lui continuellement, à ses harems de femmes. Regardez un moment au prestige, lui pouvant s'asseoir et boire du vin et observer le striptease devant lui, comme elle dansait et montait. Des femmes venant du monde entier, et les joyaux et les trésors et son armée. La seule chose qu'il aurait eu à faire, c'eût été de s'asseoir et de manger les meilleurs mets présentés et dire « Envoyez la garnison numéro tant à tel endroit et prenez cette nation, je la désire. » C'est tout ce qu'il eut à faire. S'asseoir là, elle est laissée l'inventer et garder sa bouche ouverte pour laisser les belles et charmantes tripteaseuses de ce jour-là y verser du vin et lui donner sa nourriture, l'enlaçant de leurs bras, toutes parmi les plus jolies femmes du monde. Tout le prestige se trouvait là, près de lui. Mais que fit-il? Il détourna les yeux de cela. Il savait que le feu était prêt à détruire cela. Il savait que la mort se trouvait dans cette ligne-là, voyez-vous? Il le savait et regarda plutôt vers un groupe de gens méprisés et rejetés. Par la foi, il choisit de subir l'opprobre de Christ. Et il dit, « Je suis un fils d'Abraham. Je ne suis pas le fils de ce pharaon. Même si vous faites de moi un évêque ou un diacre ou un archevêque ou un pape, je ne suis pas le fils de cet homme. Je suis un fils d'Abraham et je me suis séparé des choses du monde. » Amen, amen et amen. Par la foi, il fit cela. Il refusa le prestige. Il refusa la possibilité d'être le prochain évêque. Il déclina l'offre d'être élu archevêque ou surveillant général à la prochaine élection. Quoi que cela fût, il le refusa. Il refusa de regarder à cela. Si je deviens l'évêque, quand j'entrerai, les gens diront Saint-Père ou Docteur Antel ou Ancien Antel. Tous les prédicateurs à la réunion me taperont sur l'épaule et diront « Dites, ce gars-là a quelque chose. Laissez-moi vous le dire. Oh, chut, restez tranquille. Voici l'évêque. Ce qu'il dit, c'est la loi. Voici Monsieur Antel. Les gens prendront l'avion pour aller voir le pape et lui baiser le pied, les bagues, etc. Une possibilité s'offre à vous, catholiques et protestants, de devenir évêque ou surveillant général, un grand homme dans une organisation. Oh, mais voyez-vous, l'œil de la foi regarde par-dessus cela. vous en voyez la fin et vous savez que Dieu a dit que le tout sera détruit. La foi, cet œil d'aigle, vous élève au-dessus de cela et vous voyez au-delà de l'immédiat et choisissez d'être appelé un fils d'Abraham. Pharaon, n'ayant pas de foi, vit les enfants de Dieu comme des fanatiques. N'ayant pas de foi, il en fit des esclaves parce qu'il n'avait pas peur de ce qu'il disait. Il n'avait pas peur de Dieu. Il pensait qu'il était Dieu. Il pensait que les dieux qu'il servait, lui étant un évêque, le principal, surveillant général, il pensait que c'était son Dieu qui avait fait cela, et que cette chose-là ne valait rien. C'est pourquoi il en fit des esclaves. Il se moqua d'eux, comme le font les gens aujourd'hui. C'est exactement la même chose. La foi de Moïse les vit dans la terre promise, comme un peuple béni. Il se peut que cela le conduisit à un dur combat pour les amener à la promesse, mais Moïse choisit d'aller avec eux. Combien je pourrais rester là-dessus, mais le temps passe. Notez que c'est peut-être une chose difficile de faire changer d'idée les gens. Vous devez vivre avec eux. Vous devez être l'un d'eux. Elles sont déjà si intellectuelles que vous ne pouvez pas les remuer, voyez-vous? Mais quelque chose doit arriver. Le surnaturel doit être démontré devant eux. Cela sera une chose difficile. Les organisations vous rejetteront et toutes ces choses arriveront. C'est périlleux ce que vous devez décider. Mais pourtant, faites votre choix. Je suis l'un d'eux. Sa foi fit cela. Sa foi produisit des étincelles. Oui, monsieur, il vit cela. C'était une chose difficile de les amener à cette promesse. Mais il choisissait de toute façon avec eux, sans se soucier de leur comportement et combien ils le rejetaient. Il alla malgré tout de l'avant avec eux. J'espère que vous suivez. Bon, allez quand même avec eux. Soyez l'un d'eux, c'est juste, parce que c'est votre devoir. Il se peut que cela soit un dur combat et qu'il y ait beaucoup de difficultés à traverser, mais allez-y quand même. Mais ta foi le conduisit à choisir la parole plutôt que le prestige. Il prit la parole, c'est ce que fit la foi de Moïse. Lorsque la foi regarde au côté négatif de notre marche avec Dieu, souvenez-vous qu'il y avait là le prestige, le monde, ce qu'il y avait de plus élevé, roi en ce monde. Mais où était la promesse de Dieu? Dans le bourbier, comme travailleur debout. Mais quand la foi regarde au côté négatif de la situation, elle regarde cela comme étant plus grand et plus précieux que ce que le monde peut montrer de meilleur. Quand la foi regarde à cela, quand la foi peut voir cela, quand la foi dans la parole peut voir celle-ci rendue manifeste, cela représente bien davantage que tout le prestige et la position d'archevêque, tout ce que vous pouvez imaginer. La foi fait cela. Vous pouvez voir ce qu'il y a de pire, ce qui est méprisé, rejeté, quoi que ce soit, le plus mauvais. Néanmoins, la foi regardera cela comme étant un million de kilomètres plus haut que ce que le monde peut produire de meilleur. Amen. C'est ainsi que nous chantons ce cantique. Je suivrai le chemin avec le petit nombre des méprisés du Seigneur. Voyez-vous? Oh là là! Car voyez-vous, la foi voit ce que Dieu désire accomplir. Oh, j'espère que cela entre. La foi ne regarde pas au temps présent. La foi ne voit pas ce qui est ici. La foi regarde à ce que Dieu désire et agit en conséquence. C'est ce que fait la foi. Elle voit ce que Dieu désire, ce que Dieu désire faire, et la foi opère au travers de cela. La foi est une vision à longue portée. Elle ne baisse pas son viseur. Elle reste sur la cible. Amen. N'importe quel bon tireur sait cela, voyez-vous. C'est une longue vue. C'est un télescope. Ce ne sont pas des jumelles pour regarder tout près. Vous n'utilisez pas des jumelles pour regarder l'heure qu'il est. Vous ne les utilisez pas pour cela, mais vous utilisez des jumelles pour regarder dans le lointain. Et la foi fait cela. La foi prend les jumelles de Dieu, les deux côtés, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et elle voit chaque promesse qu'il fit. Et la foi voit cela là-bas. La foi choisit cela sans se soucier de ce que le temps présent dit à ce sujet. Elle regarde à la fin. Elle n'abaisse pas sa vision pour regarder dans cette direction. Elle regarde là-bas. Elle garde la réticule centrée exactement sur la parole. C'est ce que fait la foi. C'est la foi qui est dans un homme qui fait ces choses. Maintenant observez ce que Pharaon appela grand. Dieu l'appela une abomination. Pharaon aurait pu dire, « Regarde Moïse, tu es le prochain Pharaon, je te tendrai ce sceptre quand je partirai d'ici. Je te tends ce sceptre, il est à toi, voyez-vous, cela est grand. Tu seras un grand homme, Moïse, tu seras l'évêque, tu seras ceci et cela. Ne nous quitte pas, reste ici. » Mais voyez-vous, il appela cela grand. Mais Dieu dit que c'était une abomination. Maintenant, vous les femmes, pensez à cela une minute. Et vous les hommes aussi. ce que le monde appelle grand, Dieu l'appelle corruption. La Bible ne dit-elle pas que c'est une abomination pour une femme de porter un vêtement qui appartient à un homme, et vous pensez que vous êtes fine de faire cela? Voyez-vous, vous ne faites qu'exposer votre chair de femelle au diable, c'est tout. Ainsi ne le faites pas. Et vous les hommes qui vivez selon le train de ce monde et qui courez après ces choses, vous les hommes qui n'avez pas assez de courage pour empêcher vos femmes de faire cela, honte à vous, vous vous appelez des fils de Dieu, mais pour moi, cela ressemble à des sodomites. Voyez-vous, ce n'est pas pour blesser vos sentiments, mais pour vous dire la vérité. L'amour est correctif, il l'est toujours. Une mère qui ne prend pas soin de son enfant, qui ne le corrige pas, qui ne le fesse pas et qui ne le fait pas obéir, n'est pas une vraie mère pour lui. C'est vrai. Maintenant, regardez ce qui arrive. Moïse vit ceci dans une vision, mais Pharaon dit, ceci était grand. Dieu dit, c'est une abomination. Ainsi, Moïse choisit ce que Dieu avait dit. Maintenant, remarquez, la foi voit ce que Dieu désire que vous voyez, voyez-vous? La foi voit ce que Dieu voit, mais le raisonnement et les sens voient ce que le monde veut que vous voyez. Le raisonnement, mais c'est seulement du bon sens humain. La seule raison est que ceci n'est-il pas bien aussi, voyez-vous? C'est exactement ce qui arrive lorsque vous utilisez vos sens qui sont contraires à la parole. C'est ce que le monde désire que vous voyez, mais la foi ne regarde pas à cela. La foi regarde à ce que Dieu a dit, voyez-vous? Lorsque vous savez cela, vous ne discutez plus. Le raisonnement voit ce que le monde désire que vous voyez, c'est-à-dire de grandes dénominations. Êtes-vous un chrétien? Oh, je suis presbytérien, méthodiste, luthérien, pentecôtiste, et quoi d'autre? Je suis ceci, cela, et cela encore. Ce sont les sens. Je appartiens à la première église. Oh, je suis catholique, je suis ceci ou cela, voyez-vous? Vous dites cela, mais ce sont les sens. Vous aimez dire cela parce que c'est une dénomination, quelque chose de grand. Nous avons plus de membres que n'importe quelle église dans le monde. Mais il y a seulement une véritable église et vous ne la joignez pas, vous y naissez. Si vous y naissez, le Dieu vivant œuvre au travers de vous pour se faire connaître. C'est là que Dieu habite, dans son église. Dieu va à l'église chaque jour, il vit dans l'église, il vit en vous. Vous êtes son église, vous êtes son église, vous êtes le tabernacle dans lequel Dieu habite. Vous êtes l'église du Dieu vivant. Et si le Dieu vivant vit dans ses créatures vivantes, alors vos actions sont de Dieu. Si elles ne le sont pas, alors Dieu n'est pas là. Il ne vous ferait pas agir comme cela, alors qu'il nous fait connaître dans sa parole son plan. Ne faites pas cela. Et vous le faites quand même, voyez-vous, c'est faux. Que vous niez cela, cela montre que la vie n'est pas en vous. C'est vrai. La foi conduisit Moïse sur le chemin de l'obéissance. Remarquez, Moïse fit, il y a le jeune Pharaon, il y a le jeune Moïse. Les deux placés devant un choix. Moïse vit l'opprobre du peuple et regarda cela comme un trésor plus grand que tout ce que l'Égypte possédait, et sa foi le conduisit. Il suivit ce que la foi lui dictait dans la parole, elle le conduisit sur le chemin de l'obéissance, et finalement la gloire. Immortels ne mourront jamais dans la présence de Dieu. La vue, les sens et le prestige conduisirent Pharaon à sa mort, à la destruction de l'Égypte, sa nation. Elle ne s'est jamais relevée depuis. Vous y êtes. Si vous regardez à ceci, vous mourrez. Si vous regardez à cela, vous vivrez. Maintenant, faites votre choix. Dieu fit la même chose avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Par la foi, vous devez faire votre choix. Maintenant, remarquez, la vue conduisit Pharaon à sa mort et à la destruction de sa ville. Moïse, avec sa foi, ne craignit jamais Pharaon. Il ne se soucia même pas de ce que Pharaon disait. Il ne se soucia de Pharaon pas plus que sa mère et son père le firent au sujet de la menace. Lorsque Moïse fut confirmé comme étant la personne qui devait délivrer Israël et le conduire hors de l'Égypte, il ne se soucia jamais de ce que Pharaon disait. Il ne se laissa pas effrayer. Amen, amen, amen. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de crainte dans la foi. La foi sait ce qui en est. La foi, comme j'ai souvent dit, a de gros muscles et des poils sur la poitrine. La foi dit, taisez-vous. Et tout le monde se tait. C'est tout. Je connais ma position. Les autres disent, eh bien, peut-être qu'il le sait. Mais vous devez vous lever et montrer vos muscles. C'est tout. La foi fait cela. Notez que Moïse ne craignit jamais Pharaon après que Dieu ait confirmé son appel. Moïse croyait qu'il était appelé pour cela. Mais lorsque Dieu lui dit là-bas, c'est ainsi, il redescendit et le montra devant Pharaon et tous les autres qui étaient envoyés dans ce but. Moïse ne craignit jamais Pharaon. Notez que Pharaon utilisa néanmoins sa sagesse contre Moïse. Observez ce qu'il fit. Laisse-moi te dire, je ferai un contrat avec toi. Après que les plaies l'eussent frappé, il dit, je ferai un pacte avec toi. Va simplement adorer pendant 3 jours. Va jusqu'à tel endroit, mais ne va pas plus loin. Mais savez-vous que ce sont les sens de Pharaon qui lui dirent cela? Va jusqu'à tel endroit, mais ne va pas plus loin. N'avons-nous pas ce genre de personnes aujourd'hui? Si vous joignez l'Église, c'est en ordre. Mais sachez que la foi de Moïse ne croyait pas dans une religion jusqu'à tel endroit. Il dit, nous allons tous, nous allons jusqu'au bout, c'est vrai. Nous allons à la terre promise. Nous n'allons pas simplement quelque part pour créer une dénomination et nous arrêter là. Nous allons jusqu'au bout. Amen. Je vais jusqu'à la terre promise. Dieu nous a promis cela. Combien avons-nous aujourd'hui de pharaons à la chair, de chefs d'organisation? Maintenant, si vous ne faites pas ceci et cela, c'est tout. Eh bien, voyez-vous, jusqu'à tel endroit. Mais moi, je dis, oh non, non, non. Eh non. Voyez-vous, pharaon dit, eh bien, pourquoi pas, si tu veux avoir cette espèce de religion, je te dis ce qu'il faut faire. Que toi seul et les anciens allez adorer, vois-tu? Seulement toi les anciens allez adorer, puisque c'est là votre religion. Mais ne l'amenez pas parmi le peuple. Savez-vous ce que Moïse a répondu? Il ne restera même pas un ongle. Nous allons tous jusqu'au bout. Nous irons tous. Je ne vais pas à moins qu'ils aillent. Et aussi longtemps que je suis ici, vous m'avez sur les bras. Je ne pars pas à moins qu'ils ne viennent aussi, c'est tout. Oh, quel vaillant serviteur! Amen! Je veux les prendre avec moi, parce que je l'ai. Et je m'assois, je dis, c'est en ordre. Non, monsieur, nous voulons aussi les gens. Chacun de nous s'en va. Amen. Il dit, et nous n'allons même pas laisser derrière nous un seul de nos moutons. Il ne restera même pas un ongle. Nous allons tous à la terre promise. Amen. Chacun de nous. Que vous soyez une ménagère, une petite bonne, une femme âgée, un jeune homme, un homme âgé ou quoi que vous soyez, nous en allons quand même. Pas un de nous sera laissé. Amen. Chacun de nous s'en va. Rien ne nous arrêtera. C'est vrai. Ces religions étaient vraiment un objet de discussion là, n'est-ce pas? Oh là là! Non, Moïse ne croyait pas dans cette religion jusqu'à tel endroit. Non, il n'y croyait pas. Oui, monsieur, oh là là! Nous pourrions rester là-dessus tout le jour, mais je dois arriver finalement à mon texte et commencer à prêcher. Remarquez ceci, combien c'est merveilleux! Oh, comme j'aime ceci! Vous savez que finalement, Pharaon leur dit, sortez! Dieu le tourmenta au travers de la voix de Moïse. Il frappa tout. Il fit tout ce qui devait être fait. Il arrêta le. Il fit descendre le soleil au milieu du jour. Il fit tout le reste. Il assombrit le jour. Il amena des grenouilles, des mouches, des poux et tout le reste. Du feu, de la fumée et la mort pour ses familles et tout le reste. Il fit tout jusqu'à ce que finalement, Pharaon dut dire, sortez! Prenez tout ce que vous avez et partez. Oh là là! Que Dieu soit loué! Je suis si content qu'un homme puisse servir Dieu si parfaitement que le diable ne sait pas que faire avec lui. Il obéit à Dieu si parfaitement que le diable dit à la fin, « Oh là là, va-t'en, je ne veux plus entendre cela !» C'est vrai, vous pouvez le faire si parfaitement. Si Dieu n'avait pas soutenu Moïse, il serait alors devenu un objet de risée. Mais Dieu était là, qui confirmait cela. Tout ce qu'il disait arrivait. Pharaon devait garder ses positions, parce qu'il était un évêque, vous savez. Ainsi, il devait rester là. Il ne pouvait pas dire non, parce que cela était déjà en train d'arriver. Il ne pouvait pas nier cela, parce que c'était déjà en train d'arriver. Ainsi, il dit finalement, « Oh, sortez! Je ne veux plus vous entendre! Sortez d'ici, prenez tout ce que vous avez et partez !» Oh là là! Nous voyons ici Moïse, après que Dieu eut fait tellement pour lui, et qu'il lui eut montré autant de signes, de miracles. Maintenant, pendant les 15 prochaines minutes, parlons de ceci. Observez très attentivement. Moïse arriva au point où Dieu lui avait dit, « Je suis avec toi. Tu as dit que les mouches viennent, et les mouches sont venues. C'est une création. Qui peut amener des ténèbres sur la terre, si ce n'est Dieu? Tu as dit qu'il y ait des ténèbres, et il y eut des ténèbres. Tu as dit qu'il y ait des grenouilles, et les grenouilles entrèrent même dans la maison de Pharaon, dans les lits, et ils en firent de grands tas. Créateur, j'ai parlé au travers de toi, Moïse, et j'ai fait que ma parole crée par tes lèvres. J'ai véritablement fait de toi un Dieu devant Pharaon. Oui, monsieur. J'ai fait tout ceci. Elles arrivent à un endroit, une petite épreuve arrive, et Moïse commence à crier. Que ferai-je? Je désire que vous remarquiez ceci. C'est une grande leçon maintenant. J'aime ceci, voyez-vous. Moïse, si nous lisons ici, nous voyons que les enfants d'Israël commencèrent à avoir peur lorsqu'ils virent Pharaon les poursuivre, alors qu'ils faisaient leur devoir. Dieu avait tout accompli parfaitement. Maintenant, il leur avait fait entreprendre un voyage. Il rassembla l'Église, ils avaient été appelés à sortir, venant de chaque dénomination. Ils se rassemblèrent tous. Moïse allait là-bas et dit, « Seigneur, que dois-je faire ?» Il aurait pu dire, « Eh bien, va faire ceci. Très bien, va de l'avant. Maintenant, Moïse, tu sais que je t'ai appelé pour faire ceci. Oui, Seigneur. Très bien, va prononcer ceci, et cela arrivera. Voici les mouches. Prononce ceci, le voici. Fais ceci, le voici. » Tout était, « Ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. » Maintenant, ils commencent à avoir des difficultés, et Dieu dit, « Maintenant, je les ai fait entreprendre ce voyage. » Ils ont tous été appelés à sortir. L'église est rassemblée, je les ai mis en marche. Maintenant, Moïse, conduis-les là-bas. Je te l'ai dit. Je vais m'asseoir et me reposer un moment. Moïse dit, « Oh Seigneur, regarde qui vient ici. Voici Pharaon. » Les gens sont tous, « Que dois-je faire ? Que dois-je faire ?» Voyez-vous cela ? N'est-ce pas là une réaction humaine ? Ils commencent à crier, « Que dois-je faire ?» Nous voyons ici Moïse exprimant pleinement la nature humaine, qui veut toujours que Dieu soit derrière et vous pousse dans quelque chose. Cela, c'est nous aujourd'hui. Vous vous attendez à ce que Dieu, malgré tout ce que vous avez vu jusqu'ici, vous pousse à l'action. Voyez-vous ? Moïse s'était relâché et il dit, « Oh Dieu, je vais te demander, voir ce que tu dis. » Oui, oui, vous dites, « Bon, très bien, je le dirai aussi, voyez-vous. » Mais ici, Dieu l'avait ordonné pour ce travail. Il avait prouvé qu'il était avec lui. Et ici, un événement arrive, et alors il commence à crier, « Que puis-je faire, Seigneur? Que puis-je faire ?» Maintenant, souvenez-vous qu'il avait déjà prophétisé, car il dit, « Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Et ensuite, immédiatement après, il commence à crier, « Oh Dieu, que pouvons-nous faire ?» Cela après qu'il eut prophétisé là-bas, voyez-vous, il leur avait déjà dit ce qui allait arriver. Si la parole de Dieu était en lui, il était en lui. Ce qu'il disait arrivait effectivement. Ce qu'il avait dit allait arriver. Et était là qui criait, « Que vais-je faire ? Oh, si cela n'est pas la nature humaine, n'est-ce pas moi ? N'est-ce pas moi ?» Il avait déjà prouvé, « Ce que tu dis arrivera, je suis avec toi. » Et si une difficulté arrive tout à coup, « Que dois-je faire ? Que dois-je faire, Seigneur ?» Hé, Seigneur, où es-tu? Hé, m'entends-tu? Que dois-je faire? Pourtant, il avait déjà ordonné, confirmé et tout accompli au travers de lui. Et si, oh Dieu, oh là là, pleinement exprimé. L'homme désire se reposer et laisser à Dieu le soin de pousser. Et pourtant, il savait que Dieu l'avait oint pour faire ce travail. Et Dieu avait clairement confirmé ses prétentions. C'était le moment pour que le peuple soit délivré. Dieu, au travers de ses miracles et de ses signes, les avait tous rassemblés dans un seul groupe. Me suivez-vous ? Ils avaient tous rassemblés en un groupe et confirmé ses prétentions. L'Écriture le dit. Il y avait un signe, il y avait l'évidence de ce qu'il disait. Ensuite, il vint parmi eux comme prophète. Quoi qu'il disait, Dieu l'honorait, même jusqu'à créer des mouches et d'autres choses. Tout ce qu'il lui avait promis, il le fit. Mais il voulait attendre le « Ainsi dit le Seigneur ». Voyez-vous ? Il aurait dû savoir que la confirmation même de son appel était « Ainsi dit le Seigneur ». Le travail auquel il avait été ordonné était le « Ainsi dit le Seigneur ». Pouvez-vous saisir cela? Pourquoi attendait-il le « Ainsi dit le Seigneur » Il disait « Seigneur, que puis-je faire? J'ai amené les enfants d'Israël jusqu'ici. Voilà la situation. Pharaon arrive. Ils vont tous mourir. Que dois-je faire? Que dois-je faire ?» Il avait déjà prédit ce qu'ils allaient faire. Il leur avait déjà dit exactement ce qu'il fallait faire. Il avait prédit la fin de la nation dans laquelle il grandit. J'espère que vous comprenez. Moïse avait déjà dit, « Vous ne les verrez plus jamais. Dieu va les détruire. » Ils se sont moqués de vous assez longtemps. Dieu les détruira. Il avait déjà prédit ce qui leur arriverait. Et il dit, « Seigneur, que dois-je faire ? » Voyez-vous là, la nature humaine. Que dois-je faire? Je vais attendre le ainsi dit le Seigneur. Oui, monsieur, je verrai ce que le Seigneur dit et ensuite je le ferai. Souvenez-vous qu'il y avait un pharaon en ce temps-là qui ne connaissait pas Joseph. Et Moïse s'était levé et avait prédit la fin de la nation. Il était exactement à l'endroit où cela devait arriver et il cria, que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire? Voyez-vous, n'est-ce pas là le cœur humain? Cela n'est-il pas la nature humaine? Que ferais-je? Il avait déjà prophétisé. Dieu avait honoré tout ce qu'il disait et était appelé pour cette tâche. Ainsi, pourquoi devait-il dire, que dois-je faire? S'il y avait un besoin, il ne tenait qu'à lui de parler. Dieu voulait que Moïse mette ce don de foi qu'il lui avait donné en action. Dieu l'avait confirmé. C'était la vérité de Dieu. Et Dieu voulait que le peuple voie qu'il était avec Moïse. Et lui était là-bas qui attendait, disait, « Seigneur, je ne suis qu'un bébé, j'attends que tu me dises, et après j'irai faire ceci. J'ai le ainsi dit Seigneur. Frère, est-ce ainsi dit Seigneur? Oui, oui, frère Moïse, c'est ainsi dit Seigneur. Oui, d'accord, nous l'avons maintenant, ainsi dit Seigneur. » Et cela arriva. Cela ne faillit pas une seule fois, cela ne faillit jamais. Et si dans ces circonstances, cela revient de nouveau. Maintenant, il les a mis en marche. L'Église est déjà appelée. Ils sont en marche et ils avancent. Et Moïse commence à crier, « Seigneur, est-ce ainsi du Seigneur? Que dois-je faire? » Bon, Dieu voulait que Moïse ait la foi dans ce don qu'il avait clairement confirmé. Dieu avait prouvé clairement à Moïse et au peuple que c'était lui, par la parole prononcée de sa bouche, que les choses arrivaient. Cela était clairement identifié. Il n'y avait pas besoin qu'il s'inquiète encore à ce sujet, voyez-vous? Il n'y avait pas besoin qu'il pense à quoi que ce soit d'autre, parce que cela était clair pour tous. Il avait déjà fait ces choses, il avait déjà prouvé par des mouches et des poux qu'à sa parole des choses étaient créées et que la parole de Dieu était en lui. Ici, il va lui demander ce qu'il faut faire, parce qu'il est dans des difficultés. Voyez-vous? Oh là là! J'espère que ceci va profondément en nous et que nous pouvons voir où nous en sommes. Voyez-vous? Ne vous sentez-vous pas grand comme ça, en voyant les fautes de Moïse et regardant aux nôtres? Il se tenait là, voyez-vous. Il savait que les Écritures disaient que c'était l'heure et le jour que cela allait arriver. Il savait que Dieu l'avait rencontré dans une colonne de feu. Il alla devant les gens, il accomplit ses miracles. Et tout ce qu'il disait arrivait, même jusqu'à créer ces choses, jusqu'à faire ce que Dieu seul pouvait accomplir, démontrant ainsi que sa voix était la voix de Dieu. Dans cette épreuve, alors qu'il conduisait ce peuple vers la terre promise, le voilà debout qui crie, « Que dois-je faire ?» C'est un être humain qui voulait... C'est ainsi que frère Roy Slaughter, je crois qu'il est assis là, derrière la porte, me dit une fois au sujet de quelqu'un qui s'en prenait à moi. Et je dis, eh bien, j'ai fait ceci et maintenant j'ai fait cela. Il me dit, frère Branham, si vous laissez et laissez s'appuyer sur votre épaule aujourd'hui, demain, vous les transporterez. C'est ainsi que sont les êtres humains. Ils s'appuient sur votre épaule aujourd'hui et demain, vous les transportez. C'est ce que Moïse faisait. Dieu devait le porter après l'avoir ordonné et dit de faire cela. Les gens auraient dû dire, « Moïse, prononce la parole. Je t'ai vu le faire là-bas. Dieu t'a honoré là-bas. Tu es le même aujourd'hui. Amen. » Voyez-vous, fais-le. Amen. Il aurait dû savoir cela, mais il ne le sut pas. Bien. C'est maintenant comme c'était alors. Nous voyons que, il dit, « Dieu doit en avoir assez. Dieu doit être rassasié de cela. » Il dit, « Pourquoi cries-tu à moi ? N'ai-je pas déjà prouvé mon identification? Ne t'ai-je pas dit que je t'envoyais pour faire ce travail? Ne t'ai-je pas dit d'aller faire ceci? N'ai-je pas promis que je ferais ceci, que je serai avec ta bouche et que je parlerai au travers de toi, que je ferai ceci et que tu ferais des signes et des miracles? N'ai-je pas promis de faire cela? N'ai-je pas fait cela exactement et n'ai-je pas détruit tous les ennemis qui étaient autour de toi? Et tu l'as maintenant au bord de la mer Rouge, faisant ce que je t'avais promis dit de faire et tu es encore en train de crier à moi. Ne me crois-tu pas? Ne peux-tu pas voir que je t'ai envoyé pour faire ceci? Oh, si cela n'est pas l'être humain! Oh là là! Ainsi, il devait en avoir assez. Il dit, tu sais que tu as besoin de cela. Tu sais que si tu veux emmener ces enfants à la terre promise, c'est exactement, tu es confiné ici, à cet endroit. Il n'y a rien d'autre que tu peux faire. Ainsi, il y a un besoin. Pourquoi cries-tu à moi? Pourquoi me regardes-tu? Pourquoi m'appelles-tu? N'ai-je pas prouvé cela aux gens? Ne te l'ai-je pas prouvé? N'ai-je pas appelé cela? Cela n'est-il pas scripturaire? N'ai-je pas promis d'emmener ce peuple vers ce pays? Ne t'ai-je pas appelé? Ne t'ai-je pas dit que je le ferais? Ne t'ai-je pas appelé? N'ai-je pas dit que je t'envoyais pour le faire? Et que ce n'était pas toi, mais moi? Et je suis descendu, et j'étais avec tes lèvres. Quoi que tu disais, je le confirmais, je le prouvais. Ne l'ai-je pas fait? Quelle que soit la chose qui arrive, pourquoi agis-tu comme un bébé? Tu devrais être un homme. Parle au peuple. Amen. Ensuite, avancez. Amen. Vous y êtes. Ne crie pas. Parle. Amen. Oh, j'aime cela. Pourquoi cries-tu à moi? Parle simplement au peuple et va de l'avant vers ton objectif. Quoi que ce soit la maladie ou autre chose comme ressusciter les morts ou quoi que ce soit, parle. Je l'ai prouvé. Parle au peuple. Quelle leçon? Quelle leçon? Oh là là. À cette étape du voyage où nous sommes, regardez où nous en sommes maintenant.
Oui, monsieur. Au troisième poule. Notez ceci. Nous sommes ici à la porte de la venue du Seigneur. Il était loin pour ce travail et l'attendait toujours le « Ainsi dit le Seigneur ». Dieu doit en avoir eu assez. Il dit, « Ne crie plus, parle, je t'ai envoyé. Oh Dieu, que devrait être cette église ce matin ?» La parfaite confirmation de Dieu avec la colonne de feu, les signes et les miracles. Tout est pareil au temps de Sodome. Il a dit que cela reviendrait. Le monde est dans cette condition, la nation est dans cette condition, les femmes sont dans cette condition, les hommes sont dans cette condition, l'Église est dans cette condition, tout en est là, les éléments, les signes, les soucoupes volantes, et tout ce qu'il y a dans le ciel, toutes sortes de choses mystérieuses, le mugissement de la mer, les rats de marée, le cœur des hommes qui leur monte, la peur, la perplexité de ce temps, la détresse parmi les nations, l'apostasie de l'Église, et l'apparition de l'homme de péché, qui s'élève au-dessus de tout, et qui est appelé Dieu. Celui qui est assis dans le temple de Dieu et s'élève au-dessus. Oh là là! Et c'est arrivé à cette nation. L'Église s'est organisée et toutes se sont rassemblées comme des prostituées autour de la grande prostituée et tout est absolument dans la ligne de la prostitution. La prostitution, qu'est-ce? C'est dire aux femmes qu'elles peuvent couper leurs cheveux, dire aux femmes qu'elles peuvent porter des shorts, dire aux hommes qu'ils peuvent faire ceci ou cela, et un prédicateur qui dit « Faites ceci !» Et l'évangile social et toutes ces choses, ne voyez-vous pas que c'est commettre adultère envers la véritable parole de Dieu? Dieu nous a envoyé sa véritable parole, non dénominationnelle. Il n'y a pas de corde qui la lie. Il nous a donné une colonne de feu, le Saint-Esprit qui était avec nous pendant 30 ans, et tout ce qu'il a dit et prédit est arrivé exactement comme annoncé. Parle au peuple et allons de l'avant. Amen. Nous avons un objectif, c'est la gloire. Avançons vers cela. Nous dirigeons vers la terre promise. Tout est possible à celui qui croit. Parle au peuple. N'ai-je pas prouvé cela? N'avez-vous pas pris ma photographie et tout le reste? Et n'ai-je pas fait tout ce qui pouvait être fait pour prouver que j'étais avec toi? N'y a-t-il pas eu un article à ce sujet dans les magazines, il y a quelques semaines, alors que tu avais dit de la chair 3 mois avant ce qui arriverait, et cela est arrivé, a été confirmé, même par la science? Avec tout ce que j'ai fait, tu attends encore? Parle aux gens et avancez vers votre objectif. Amen.
Amen.
Nathan le prophète n'a-t-il pas dit une fois à David, le roi oint, fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Il dit à David, fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Josué était oint pour conquérir le pays. Pour Dieu et son peuple, le jour était court. Il avait besoin de plus de temps pour faire le travail pour lequel il avait été oint et commissionné. Josué, un homme, il était oint. Dieu lui avait dit, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Amen. Je veux que tu ailles là-bas et que tu le nettoies des Amalécites et de tous les autres, les Philistins, les Phéréziens, et chasse tout cela. « Je suis avec toi, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, nul ne peut t'importuner, va là-bas. » Et Josué sortit son épée et dit, « Suivez-moi !» Et il alla là-bas et les combattit. Et que fit-il? Il met l'ennemi en déroute. Ils étaient de petits groupes ici et là. Lorsque le soir vint, ils se rassemblèrent tous et vinrent avec grande force contre lui, alors que le soleil se couchait. Il avait besoin de plus de lumière. Le soleil se couchait. Il n'est pas tombé sur ses genoux et n'a pas dit, « Éternel Dieu, que ferai-je, que ferai-je » Il parla. Il avait un besoin et dit, « Soleil, arrête-toi !» Il ne cria pas. Il commanda, « Soleil, arrête-toi ! J'ai besoin de ceci. Je suis le serviteur de l'Éternel, oint pour ce travail, et j'ai un besoin. Arrête-toi et continue à briller. » Et toi, lune, reste où tu es. Et cela fut ainsi jusqu'à ce qu'il eût terminé la bataille et qu'il les eût chassés. Et le soleil lui obéit. Il ne cria pas. Il parla au soleil. Il dit, arrête-toi. Soleil, reste là. Et toi, lune, reste où tu es. Il ne cria pas, Seigneur, maintenant que puis-je faire? Donne-moi plus de soleil. Il avait besoin de lumière, ainsi il commanda et le soleil lui obéit. Oh, il commanda au soleil de s'arrêter.
Samson, un homme moins, suscité et ordonné de Dieu avec un don de puissance, il était ordonné pour détruire la nation des Philistins. Ordonné, né et moins de Dieu pour détruire les Philistins. Un jour, ils l'attrapèrent dans les champs, sans son épée et sans lance, et un millier de ces Philistins cuirassés lui sautèrent dessus. S'est-il agenouillé et a-t-il dit, « Ô Seigneur, j'attends une vision. Ô Seigneur, que dois-je faire ? Indique-moi ce qu'il faut faire. » Il savait qu'il avait besoin de découvrir rien d'autre qu'une mâchoire d'âne et avec elle il battit un millier de Philistins. Amen. Il ne cria jamais à Dieu. Il utilisa son don loin. Il savait qu'il était envoyé pour ce travail. Il savait qu'il était né pour cela. Il savait qu'il était loin d'un don. Et il battit un millier de Philistins. Il ne cria pas à Dieu. Dieu l'avait ordonné et avait confirmé par les choses qu'il avait accomplies. Il était un serviteur de Dieu, loin pour détruire les Philistins. Et il le fit. Peu importe ce qu'étaient les circonstances, il le fit. Il ne demanda jamais rien. C'était son travail. Dieu traitait au travers. Il ramassa cette mâchoire d'âne et donna à battre les Philistins. Un coup avec cette mâchoire sur un de ses casques d'airain de 3 cm d'épais aurait dû briser cet os en un million d'éclats. Les hommes battirent un millier. Elle les tua et était encore là, intact dans sa main. Il ne posa pas de questions, ne cria pas. Il parla. Il les mit en déroute. Oh là là, prendre les Philistins. Puis-je prendre les Philistins, Seigneur? Je sais que tu m'as envoyé pour le faire. Oui, Seigneur, je sais que tu m'as envoyé pour détruire cette nation des Philistins. Maintenant, ici, il y en a un millier autour de moi. Je n'ai rien. Que vais-je faire, Seigneur? Oh là là! Rien ne va l'importuner. Il est loin pour le travail. Il n'y a rien qui puisse vous faire du tort. Non, pas une seule chose. Alléluia! Il prit simplement ce qu'il avait et il les bâtit, c'est vrai. Lorsque l'ennemi l'encercla et dit, « Maintenant, nous l'avons dans nos murs. Nous l'avons maintenant. Nous l'avons à l'intérieur avec cette femme. Nous avons fermé les portes tout autour. Elle ne peut pas sortir. Nous l'avons. » Samson ne cria pas, « Oh Seigneur, ils m'ont encerclé avec cette dénomination. Que vais-je faire? Me voilà au milieu d'eux. Que vais-je faire ?» Il ne dit jamais cela. Il sortit simplement et démolit les portes et les mit sur son épaule et s'en alla avec. Amen. Il était loin pour ce travail. Dieu l'avait appelé. Ils ne l'enfermèrent pas à l'intérieur. Non, vraiment pas. Il emporta les portes avec lui. Il ne pria pas à ce sujet. Il ne demanda pas à Dieu s'il fallait le faire ou pas. C'était dans l'exercice de ses fonctions. Amen, amen et amen. Dans l'exercice de ses fonctions. Pourquoi crier à moi? Parle et continue. Amen. Ne crie pas, parle. Il a fini maintenant de gémir et de pleurnicher. Il devrait être assiégé pour parler, c'est vrai. Il savait que son don de puissance loin pouvait détruire n'importe quel Philistin qui se tenait devant lui. Amen. Mais nous ne savons pas cela, vous voyez. Nous sommes encore des petits bébés à la bouteille. Il savait cela. Il savait que Dieu l'avait suscité dans ce but-là et qu'il n'y avait rien qui allait pouvoir se tenir devant lui tous les jours de sa vie. Rien ne pouvait le détruire. Il était suscité dans ce dessein comme Moïse l'était et rien n'allait l'empêcher d'arrêter. Ni Amalécite, ni aucun autre ne pouvait l'arrêter. Il était sur la route pour la terre promise. Samson savait qu'il était sur la route. Josué savait qu'il prendrait le pays. Il était confirmé. La parole de Dieu l'avait promis. Le Saint-Esprit était là confirmant cela. Il était en route et rien ne pouvait se mettre au travers de son chemin. Non, monsieur, il était dans l'exercice de ses fonctions avec Dieu. Rien ne pouvait faire obstacle sur son chemin. Ainsi, il prit simplement les portes, les mit sur son épaule. Elles pesaient environ 4 à 5 tonnes. Et il marcha jusqu'au sommet de la colline et il s'assit sur elles. Rien ne pouvait l'empêcher, il avait un don loin de Dieu. Il n'avait pas besoin de crier, « Seigneur, que dois-je faire maintenant ?» Il était déjà loin pour le faire, c'était le « Ainsi dit le Seigneur !»« Débarrasse-toi d'eux !» Alléluia !« Débarrasse-toi d'eux, je t'ai suscité dans ce dessein !» Amen !« Que dois-je faire, Seigneur ? Que vais-je faire ici à la mer Rouge ? Ne t'ai-je pas dit que je t'avais donné une montagne là comme signe ? Reviens à cette montagne et va, emmène les enfants d'Israël dans le pays. Ne t'ai-je pas appelé dans ce dessein-là ? Pourquoi t'inquiètes-tu encore ? Parle et commence à avancer. Amen !» Amen. Je t'ai appelé dans ce but. David savait qu'il était loin et qu'il avait prouvé qu'il était bon tireur. Il savait qu'il était un bon tireur. David était loin, il le savait. Et lorsqu'il se tint devant Goliath, il ne cria jamais, « Oh Dieu, que dois-je faire maintenant ? Mais, je sais ce que tu vis dans le passé. Tu me laissas tuer un ours et tu me laissas tuer un lion. Mais qu'en sera-t-il de ce Goliath ? Il ne fit jamais cela. » Il parla simplement. Que dit-il? Tu seras comme l'un d'eux. Il parla et alla de l'avant. Il ne pria jamais, n'offrit jamais rien. Il savait qu'il était oint. Amen. Il était oint et cette fronde avait confirmé cela. Il avait foi dans son onction. Il avait la foi que Dieu pouvait diriger cette pierre directement au milieu de ce casque où se trouvait le seul endroit vulnérable. Il se tenait là. Il savait qu'il était un bon tireur. Amen. Il savait que Dieu avait fait cela. Amen. Il savait qu'il avait tué un lion. Il savait qu'il avait tué un ours. Mais cela, c'était en faveur de son père terrestre. Maintenant, c'était en faveur de son père céleste. Amen. Il ne s'agenouilla pas pour dire, « Que dois-je faire, Seigneur ?» Il parla et dit, « Tu seras comme le lion et l'ours, et me voici. » Amen. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Il parla et s'avança pour rencontrer ce Goliath. Oh là là, sans regarder à sa grandeur. Il était un petit jeune homme au teint coloré. Il n'était pas très grand, très beau à regarder. C'était un petit jeune homme. La Bible dit qu'il était coloré. Sans regarder à sa grandeur et à sa soi-disant capacité de faire. Vous savez, l'évêque lui dit, « Maintenant, regarde ici, fils. Cet homme est un théologien. C'est un combattant, né un combattant. Et il a combattu dès sa jeunesse. Tu ne peux rivaliser avec lui. » Ses frères lui dirent, « Oh, espèce de polisson, tu viens ici pour faire une chose telle que celle-là. Retourne à la maison. » Cela ne le gêna pas. Pourquoi? Il savait qu'il était loin. Le Dieu qui me délivra de ce lion, le Dieu qui me délivra des pas de cet ours, est plus que capable de me délivrer des mains de ce Philistin. Me voici, je te rencontre au nom de l'Éternel, Dieu d'Israël. Amen. Il ne pria pas. On avait déjà prié pour lui. Dieu avait prié pour lui avant la fondation du monde. Il était loin pour le travail. Il devait parler et aller de l'avant. C'est tout ce qu'il fallait faire à ce sujet. Seulement parler et aller de l'avant. Oh, tout était là. Ses frères dénominationnels, ses moqueurs se tenaient aussi là. Oh oui, ils se tenaient là, qui se moquaient et disaient, « Ah, tu n'es qu'un polisson. » Cela ne toucha pas du tout. Tu veux être différent des autres. Tu cherches simplement à te faire valoir. Si cela avait été le cas, cela aurait été ainsi. Mais il regardait ça seulement au côté intellectuel. David savait que l'huile de l'onction était sur lui. Cela ne faisait aucune différence pour lui. Il dit, « Ce Philistin sera comme l'ours et le lion, car me voici. » Il prédit cela avant que cela arrive. Que fit-il? Il tua l'ours, il tua le lion. Il assomma le lion. Avec quoi? Avec une fronde. Et ensuite, il prit un couteau et tua le lion. Il fit la même chose avec Goliath. Il l'assomma avec une pierre et il sortit son épée et lui coupa la tête. Qu'avait-il prédit avant que cela arrive? Tu seras comme l'un d'eux. Pourquoi? Il prononça la parole, disant que cela arriverait. Et ensuite, il alla de l'avant pour accomplir cela. Amen. Oh, frère. Il parla et il fut maître de la situation ce jour-là. S'il n'y eut jamais un temps où l'homme devrait parler, c'est bien maintenant. Je vais m'arrêter dans quelques minutes, si vous pouvez patienter encore quelques minutes. J'ai là encore quelques passages que j'ai inscrits, quelques écritures auxquelles je veux arriver. Pierre ne cria pas lorsqu'il trouva un homme qui avait assez de foi pour être guéri et qui était couché à la porte appelée la Belle. Il ne s'est jamais agenouillé. Elle n'a jamais prié toute la nuit ou tout le jour ou fait une très longue prière disant, « Seigneur, je te prie maintenant d'aider ce pauvre infirme. Je vois qu'il a la foi. Je sais qu'il est un croyant. Je lui ai demandé. Il m'a dit qu'il avait la foi et qu'il croyait ce que je lui avais dit. Je lui ai dit ce que tu avais fait et je pense, Seigneur, peux-tu me donner un ainsi dit le Seigneur pour lui ?» Non, il savait qu'il était loin comme apôtre. Il savait que Jésus-Christ l'avait commissionné en disant, « Guéris les malades, ressuscite les morts, purifie les lépreux, chasse les démons, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. » Il dit, « Pierre, va faire cela. » Il n'avait pas besoin de prier, il était commissionné. Qu'a-t-il dit? Il dit, « Au nom de Jésus-Christ. » Il prononça le nom de Jésus-Christ et l'homme était simplement étendu là. Il le prit par la main et dit, « Lève-toi. » Il le tint jusqu'à ce que ses chevilles reçoivent la force et commence à marcher. Pourquoi? Il n'eut jamais de réunion de prière pendant toute une nuit. Il ne cria jamais à Dieu, il était convaincu que des lèvres de Jésus-Christ étaient loin pour ce travail. Il parla et le guérit parce qu'il savait qu'il était un disciple loin dans ce but-là. Les gens qui étaient couchés de son ombre ne dirent jamais, « Oh, viens, apôtre Pierre, et pleure sur nous, et prononce pour nous la prière de la foi. » Non, non, ils ne dirent jamais cela. Ils savaient qu'il était un apôtre de Dieu loin et confirmé. Ils dirent ainsi, « Laissez-nous seulement entrer en contact avec ton ombre. Tu n'as pas un mot à dire. Nous savons cela, nous croyons cela. La vie était en eux. L'apôtre ne pouvait pas aller vers eux tous, mais ils étaient une partie de cela. Moïse dit, je ne suis pas seul à partir. Nous partons tous. Nous avons tous quelque chose à faire. Nous devons tous être loin. Ils virent cet apôtre guérir ce malade et faire toutes ces choses, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas aller vers eux. Ainsi, ils ne dirent jamais, Pierre, viens, et présente une prière à Dieu, et attends jusqu'à ce que tu aies ainsi le Seigneur. Ensuite, viens me dire ce que le Seigneur a dit, et dire, nous pouvons seulement nous coucher dans son ombre, parce que le Dieu qui était dans Jésus-Christ est en lui, et nous le voyons faire la même chose. Ainsi, ils touchèrent le bord du vêtement de Jésus, et se couchèrent dans son ombre, car Jésus était dans cet homme. Si cette ombre pouvait les toucher, ils seront guéris. Et la Bible dit qu'ils furent tous guéris. Il n'y eut pas de réunion de prière durant toute la nuit. Ils ne dirent jamais, « Seigneur, si je vais me coucher dans l'ombre de cet apôtre. » Non, ils savaient cela. La lumière les avait frappés. Leur cœur était plein. Leur foi était libérée. Amen. Ils le crurent et ils le virent. C'était la même chose pour les mouchoirs de Paul. Maintenant, pour terminer. Jésus ne cria pas lorsqu'ils lui amenèrent ce garçon démoniaque qui était atteint d'épilepsie et qui tombait dans le feu. Il ne dit jamais, « Père, je suis ton fils. » Et tu m'as envoyé maintenant ici pour faire une telle chose. Ainsi, puis-je guérir ce garçon ? Il ne dit jamais cela. Il dit, sors de lui, Satan ! Il parla, et le garçon fut guéri. Lorsqu'il rencontra Légion, qui avait 2000 démons en lui, ce n'était pas Jésus qui criait, c'était les démons qui criaient. Si tu nous chasses, oh là là, permets-nous d'aller dans ce troupeau de pourceaux. Jésus ne dit pas, maintenant Père, suis-je capable de faire ceci? Il dit, sortez de lui! Et les démons sortirent. Assurément, il savait qu'il était le Messie. Devant la tombe de Lazare, celui-ci était mort depuis 4 jours, ils lui dirent, si tu eusses été ici, Seigneur, il ne serait pas mort. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Pas où, quand ou comment? Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Amen. Il savait qui il était. Il savait ce qu'il était. Il savait qu'il était Emmanuel. Il savait qu'il était la résurrection. Il savait qu'il était la vie. Il savait qu'en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il vit ces gens là-bas et ils disent que ce que Dieu lui avait dit de faire, et il allait là-bas. Il ne dit pas, maintenant attendez, je vais m'agenouiller ici et agenouillez-vous tous et priez. Il dit, croyez-vous que je peux faire ceci? Amen. Il demanda cela. Ce n'était pas lui, c'était eux. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Oh là là, il est identifié. Quelque chose doit arriver. Lazare, sort. Il parla et un mort sortit. Pas puis-je, il parla. Lorsque la foi fut satisfaite, la chose arriva. Il parla et l'aveugle vit. Le boiteux marcha, le sourd entendit, les démons crièrent et sortirent, les morts ressuscitèrent. Pourquoi ne pria pas? Il était loin le Messie. Il était ce Messie. Il savait qui il était. Et il connaissait sa position. Il savait pourquoi il avait été envoyé. Il savait que le Père l'avait identifié pour être le Messie, pour les croyants. Et lorsqu'il rencontra ce croyant et dans la foi, il prononça simplement la parole. Les démons se dispersèrent. Oui, monsieur, parle, ne crie pas, parle. Amen. Il croyait. Il connaissait le droit que Dieu lui avait donné, mais nous pas. Il savait qu'il était, nous pas. Moïse l'avait oublié, Samson le comprit, d'autres le comprirent, Josué le comprit. Moïse l'oublia, Dieu dut attirer son attention sur cela. Il dit, pourquoi cries-tu à moi? Je t'ai envoyé pour faire ce travail, parle et continue à avancer vers ton objectif. Je t'ai dit que tu viendras à cette montagne, prends les enfants d'Israël et conduis-les plus loin. Pars simplement, peu importe. Ce qu'il y a sur ton chemin, enlève-le, je te donne l'autorité de le faire. J'ai parlé, tu créas par ta parole des mouches, des poux et des choses comme cela. Maintenant, pourquoi pousses-tu des cris vers moi? Pourquoi viens-tu vers moi en criant ces paroles? Parle simplement et regarde-le agir, c'est tout. Oh là là, oh comme j'aime cela. Ici Jésus, tout ce qu'il disait, il prononçait simplement la parole et c'était ainsi. Dieu lui avait confirmé qu'il était son fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, observez-le, j'aime ceci. Regardez avec quel courage et quelle majesté il se tint devant ses critiques. Il dit, détruisez ce temple. Je prierai le Père et je verrai ce qu'il fera à ce sujet. Détruisez ce temple et je le relèverai. Non pas, j'espère, je vais essayer, je le ferai. Pourquoi? L'Écriture l'a dit. La même Écriture qui a dit qu'il relèverait son corps nous donne l'autorité, la puissance. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi crier à moi? Parle et va de l'avant. Oh, courageusement, détruisez ce temple, je le relèverai. Oh, et souvenez-vous maintenant, nous terminons, que c'était le même que celui qui avait dit dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Est-ce vrai? C'est lui qui l'a dit. C'est Jésus qui, dans Marc 11, 24, a dit, « Si vous dites à cette montagne, non pas si vous priez pour que cette montagne, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez accomplir. Si vous dites cela présomptueusement, cela n'arrivera pas. Mais s'il y a quelque chose en vous, que vous êtes loin pour ce travail, et que vous savez que c'est la volonté de Dieu de faire cela, et que vous le disiez, cela doit arriver. Si vous, c'est lui qui a dit ceci, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Oh là là, oh là là. Voyez-vous ce que je veux dire? Pardonnez ceci, mais cela vient en moi, je dois le dire. C'est lui qui a dit ce jour-là, là-bas dans les bois, tu n'as pas de gibier. Et il créa trois écureuils devant nous. Qu'est-ce? Simplement prononcer la parole, dire qu'ils seront là, là et là. Et ils étaient là. C'est lui qui fit cela. Charlie, Rodney, c'est lui là-bas au Kentucky. Nelly, Maggie et vous autres, c'était lui, ce même Dieu qui était là-bas, qui parle à Moïse et qui dit, « Pourquoi cries-tu à moi? Prononce la parole. » C'était lui qui les créa. C'est lui, c'est lui. Oh là là. C'est lui qui donna la vision, il y a environ une année, qui disait que nous irions là-bas, et ses sept sauts, et qu'il y aurait pour commencer un grand bruit de tonnerre, et que cela serait en forme d'une pyramide. Et le magazine Look ou Life le relatait. C'est affiché là-bas la paroi. C'est lui qui a dit cela. C'est lui qui a dit ce soir-là, alors que je descendais cette route, et que j'ai vu ce grand serpent Mamba près d'atteindre mon fer. Il dit, il t'a été donné la puissance de le lier, lui ou n'importe lequel. C'est lui qui a dit cela à ma femme, dont les cheveux grisonnent, et qui est assise là-bas. C'est lui qui me réveilla ce matin-là, là-bas, dans la chambre, et qui était debout dans le coin, et dit, ne crains pas de faire quelque chose, ou d'aller quelque part, ou de dire quelque chose, car l'infaillible présence de Jésus-Christ est avec toi, où que tu ailles. C'est lui qui a dit là-bas, à Sabino Canyon, il y a environ 3 mois, lorsque je priais, et que je me demandais ce qui allait arriver. Et comme je me tenais là, une épée tomba dans ma main, et il dit, c'est l'épée du roi. C'était lui. C'est lui qui m'a dit, comme j'étais avec Moïse, je t'enverrai. C'est lui qui m'a dit, il y a 30 ans là-bas à la rivière, alors que je n'étais qu'un jeune homme, un petit prédicateur qui me tenait là, lorsque cette lumière, cette même colonne de feu descendit des cieux et s'arrêta là et dit, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour annoncer et préparer la première venue de Christ, ton message annoncera et prépara la seconde venue. Au monde entier, comment cela pouvait-il être, alors que mon propre pasteur rit et se moqua de cela? Mais c'est arrivé exactement. C'est vrai, c'est lui qui a dit cela. Oui, monsieur. Oh, c'est lui qui a dit, sous forme de prophétie, pour souligner la vision, cela arrivera. C'est lui qui a dit, s'il y en a un parmi vous qui prophétise ou qui reçoit une vision et qui la fait connaître et que cela arrive, souvenez-vous alors, ce n'est pas lui, c'est moi. Je suis avec lui. Oh là là, combien je pourrais continuer à dire, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui qui descendit lorsque je leur dis qu'il y avait une colonne de feu qui était là-bas sur la rivière. Ne pouvez pas croire cela. C'était lui là-bas parmi, avec ce prédicateur baptiste devant 30 000 personnes ce soir-là, de le Sam Houston Coliseum, lorsqu'on prit la photographie de cet ange du Seigneur. C'était lui, le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui a prédit où ces choses seraient. C'est lui qui a dit ceci. C'est lui qui a fait ces choses. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a fait toutes ces choses exactement comme il l'a dit. Amen. Pourquoi devrais-je attendre? Dieu a confirmé la parole. C'est la vérité. Voyageons, marchons. Continuons sur les traces du Seigneur, écartant tous les doutes, tous les péchés. Nettoyez la maison, frottez-la bien, comme la vision ou le rêve de Juno Jackson le disait. Il ne restait plus que des lampes. Il ne restait plus que des lampes, et elles avaient des bandes dorées autour d'elles, dans le rêve qu'il me donna l'autre soir. Oh là là. Frère Collins, ne soyez pas inquiet au sujet de ce poisson. Il était blanc. Vous ne saviez simplement pas comment le manipuler. Mettez de côté tout ce qui est contraire à cela. Souvenez-vous que c'est la vérité. Peu importe combien cela semble être fanatique. Quelquefois, tout le reste, allez de l'avant. C'est le Saint-Esprit, le même Dieu qui ressuscita Jésus-Christ des morts. Le même qui peut créer des choses par sa parole. Celui qui vécut dans les jours de Moïse est le même aujourd'hui. Son appel dans ces derniers jours, il est confirmé. Ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il a fait, Sodome est là, il y a un Billy Graham et un Oral Roberts là-bas, et l'Église avance par les mêmes signes qu'il a promis aux deux endroits, les voilà. C'est lui qui a dit cela. Ô Seigneur, donne-moi du courage, je te prie, aide-moi. Ô Seigneur Dieu, je dois arrêter ici, il se fait tard. Pourquoi crier à moi? Pourquoi cries-tu à moi alors que j'ai prouvé que j'étais avec toi? N'ai-je pas guéri tes malades? Il dirait, ne t'ai-je pas dit des choses qui sont arrivées exactement? Ton pasteur ne peut pas faire cela. Il ne le peut pas, il est un homme. C'est moi le Seigneur, dirait-il. Je suis celui qui a fait cela. Je suis celui qui a dit ces choses. Ce n'est pas lui, c'est ma voix. Je suis celui qui ressuscite vos morts lorsqu'ils s'effondrent. Je suis celui qui guérit les malades. Je suis celui qui prédit ces choses. Je suis celui qui sauve. Je suis celui qui donne la promesse. Oh Dieu, donne-moi du courage pour prendre cet effet de la parole qu'il a mise dans ma main il y a environ 33 ans, de la tenir et de marcher en avant vers ce troisième poule. Je te prie, courbons nos têtes. Père Céleste, l'heure s'avance, mais la parole devient précieuse. Nous voyons, Seigneur, fois après fois, que l'infaillible présence de Christ nous rejoint toujours. Combien je te remercie de ta bonté et de nous avoir épargnés et bénis. Combien nous te remercions. Alors que je tiens ces mouchoirs dans ma main, Seigneur, ce sont des gens qui ont la foi et qui croient ceci. Puissent tous les démons et les maladies quitter ces gens. Et j'ordonne à chaque esprit qui est ici, venant du malin et non pas de Dieu, que chaque esprit de maladie, sous les infirmités, les affections, nous ne sommes pas couchés dans l'ombre d'un homme, ce qui serait en ordre, mais nous sommes dans l'ombre de l'Évangile. L'Évangile confirmé. La glorieuse colonne de feu se déplace ici et là au travers de ce bâtiment, la même que celle au travers de laquelle Dieu a regardé la mer Rouge s'ouvrit et Israël la traversa. Et maintenant, alors qu'il regarde, c'est aspergé du sang de son propre Fils. Que la miséricorde et la grâce, puissions-nous être obéissants, puissions-nous aujourd'hui arrêter de crier, puissions-nous réaliser que tu nous as appelés à ce travail. C'est l'heure, je prononce cela au nom de Jésus-Christ, que toute maladie quitte cet endroit. Puis chaque personne et chaque femme qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ consacre sa vie à nouveau aujourd'hui. Je consacre la mienne, Seigneur, sur l'autel de la prière. Je m'incline et je m'humilie en tournant ma tête vers le sol d'où tu m'as pris. Seigneur Dieu, je suis honteux de ma faiblesse et de mon incrédulité. Pardonne-moi, Seigneur. Donne-moi du courage. Donne-nous à tous du courage. Je sens comme Moïse que nous sommes tous sur la route qui conduit dehors. Nous ne voulons pas en laisser un seul. Nous voulons les prendre tous, Seigneur. Ils sont à toi. Je les réclame pour toi. Bénis ces gens aujourd'hui, Seigneur. Accorde-le. Bénis-moi avec eux, Père. Et ton nom sera loué. La gloire t'appartiendra. Donne-nous cette foi éternelle, Seigneur, alors que nous nous consacrons à toi maintenant. Sur cette Bible, sur cette tribune, je te donne ma vie, Seigneur. Je compte sur chaque promesse que tu donnes. Je sais qu'elles seront confirmées. Je sais qu'elles sont la vérité. Donne-moi le courage de prononcer ces paroles. Donne-moi du courage, Seigneur. Dirige-moi dans ce que je ferai, dirai. Je me donne à toi avec cette Église, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma foi lève les yeux vers toi, toi, agneau du calvaire, sauveur divin. Maintenant, entends-moi pendant que je prie. Enlève tous mes péchés. Oh, laisse-moi être depuis ce jour, être entièrement à toi. Maintenant, restons vraiment tranquilles pendant que nous fredonnons cela. Levons nos mains vers lui.
consacrez-vous maintenant à Dieu. Maintenant, entends-moi pendant que je prie. Enlève tous mes doutes. Oh, laisse-moi être depuis ce jour entièrement à toi. Maintenant, disons ensemble avec nos mains levées, Seigneur Jésus, je me consacre maintenant à toi. J'implore que cela soit une vie de service, plus pure, avec plus de foi, afin que je puisse être un serviteur plus acceptable dans ma vie à venir que je l'ai été dans le passé. Pardonne mon incrédulité et redonne-nous la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Je me donne à toi au nom de Jésus-Christ. Alors que nous courbons nos têtes, pendant que je marche dans le sombre labyrinthe de la vie et que la désolation s'étend autour de moi, sois mon guide. Ordonne aux ténèbres de se changer en jour. Enlève toutes mes craintes. Ne me laisse jamais m'égarer loin de toi. Alors que nous courbons nos têtes maintenant, avez-vous l'impression que le message de ce matin vous a fait du bien, vous a donné du courage? Si vous le voulez, levez vos mains vers Dieu et dites, « Oh Dieu, je te remercie. Je levais mes deux mains parce que je sens que cela m'a aidé. Cela m'a donné du courage. Certaines des choses que j'ai dites, je ne pensais pas que j'allais vous en parler, mais c'est fait. C'est une réprimande pour moi. Je ne me suis pas trouvé dans l'état que je pensais, mais j'ai découvert que j'étais coupable de crier tout le temps plutôt que de parler. » Dieu, aide-moi depuis cette heure, afin que je sois un serviteur plus consacré. Je ne prie pas seulement pour moi, je prie aussi pour vous, afin qu'ensemble, en tant que corps de Christ, appelé hors du monde, nous nous préparions pour la terre promise. Et puisse Dieu me donner le courage de vous montrer clairement le chemin, afin que vous ne le manquiez pas. Je vous dis par la grâce de Dieu que je suis les empreintes sanglantes de celui qui est là devant nous. Et cette croix consacrée je porterai jusqu'à ce que la mort me libère, et ensuite aller à la maison pour porter une couronne, qu'il y a une couronne pour moi. Nous te donnons ceci, Père, comme consécration au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ceci. Ayez une vie consacrée. Renoncez à vous-même, soyez remplis de douceur et d'humilité. Marchez dans l'Esprit. Parlez, marchez, habillez-vous, agissez comme des chrétiens. Humblement et dans la douceur. Maintenant, ne laissez pas ceci faillir. La voix de Dieu parle au travers de la parole. Elle parle au travers des dons. Comme un don vient, un autre l'exprime. Un autre don vient, exprime la même chose. Voyez-vous, c'est certainement juste avec la parole et juste avec l'heure. Dieu est avec nous. Combien nous le remercions. Maintenant, avec nos têtes courbées, si notre sœur voulait bien nous donner un accord sur « Prenez le nom de Jésus avec vous, comme un bouclier contre tous les pièges. » Lorsque les tentations vous entourent, respirez simplement ce saint en prière. Faites simplement cela. Prononcez la parole. Prononcez son nom. Chantons cela avant de nous séparer. Prenez le nom de Jésus avec vous, enfant de tristesse et de malheur. Cela vous donnera la joie et le réconfort. Prenez-le partout où vous allez. Précieux nom. Maintenant, serrons-nous la main les uns des autres. Et disons, je prierai pour vous, frère, priez pour moi. Espoir de la terre et joie du ciel, précieux nom, oh combien il est doux. Espoir de la terre et joie du ciel. Maintenant, avec nos têtes courbées, chantons le verset suivant. prenez le nom de Jésus avec vous comme un bouclier contre tous les pièges. Lorsque les tentations vous entourent, respirez ce saint nom en prière. Précieux nom. Oh, combien il est doux. Espoir de la terre et joie du ciel. Précieux nom. Oh, combien il est doux. Espoir de la terre et joie du ciel. Avec nos têtes baissées maintenant et nos cœurs avec elles, réalisons que Dieu a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point dans le jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Sachant que nous possédons cela par la grâce de Dieu, dans notre sein, nous étant consacrés à lui ce matin pour que nos vies changent depuis ce jour et que nous soyons plus positifs dans notre pensée. Nous essayerons de vivre avec une telle douceur et humilité en croyant que ce que nous demandons à Dieu, il le donnera à chacun d'entre nous. Nous ne parlerons pas mal les uns des autres ou de personne, nous prierons pour nos ennemis et nous les aimerons. Nous ferons du bien à ceux qui nous font du mal. Dieu est le juge de qui est juste et de qui est faux. Mais sur la base de ceci, avec nos têtes courbées, je vais demander à notre cher ami, frère Livelle, de terminer par la prière. Frère Livelle.